dans le tempo épisode 14. C'est parti. C'est l'épisode anniversaire, les amis. Ça fait maintenant un an qu'on a dans le tempo avec le frérot Salman. On a donc 14 épisodes parce qu'on a commencé à augmenter la fréquence récemment. Moi, je pensais qu'on avait 12. J'ai dû refaire l'intro. C'était légendaire.
Ouh, Michel, c'est l'anniversaire veut pas dire forcément 12.
Ah oui, non, mais je pensais qu'on était un par mois. J'avais oublié qu'on avait augmenté la fréquence. Et donc, pour fêter ça, avec nous, on a réinvité les plus grosses têtes de nos invités, les invités les plus pertinents, les invités les plus BG.
Est-ce qu'on peut parler de All-Star ?
Je peux parler de All-Star, je peux parler de Etutti Quanti. Donc, on a donc avec nous Mister MV, Florent Garcia et Pandrez avec nous, évidemment, qui est mon copain, mon petit copain, si j'ose dire.
Amoureux.
Voilà. Et donc, voilà, on n'a rien prévu, on ne sait pas trop de quoi on va parler. Moi, si, je me demandais, premier sujet de débat, Zizi Kaka Mixtape, futur projet légendaire ou escroquerie ?
Ah, c'est un sujet extrêmement intéressant.
Donc c'est un sujet qui parle de toi.
Mais je ne suis pas sûr que ça va, ça va passionner absolument tous nos auditeurs.
Non, je ne suis pas sûr.
Ah, Michel, on peut dire quand même que... Certes, c'est l'anniversaire. On veut faire un petit épisode un peu à la cool, discussion entre nous, comme ça, avec les meilleurs, disons-le. C'est pas pour frustrer ou pour être dur avec les autres invités, mais on a pris... On a pris quand même la crème de la crème. Non, on a pris en fait surtout la crème de la crème des créateurs de contenu. Parce que, les gars, on s'est dit que c'était l'occasion de discuter à la cool autour des contenus musique sur Internet. Qu'est-ce qu'on kiffe, nos recos, discuter un peu voilà de ce qu'on adore en anglais, en français, les meilleurs plans, essayer de filer ça à tous nos auditeurs, à vous qui nous suivez, et puis peut-être même en profiter pour s'appuyer un peu sur l'expérience de chacun, parce que vous êtes tous des créateurs de contenu, chacun à votre manière, avec des profils différents, mais ça peut être cool de justement de à la fois parler des autres et puis ensuite dire moi qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça, etc. Juger vos propres contenus, comment ça se passe, etc. Bref. Parler de musique sur Internet.
Alors, qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? Qu'est-ce qui est chaud ? Qu'est-ce qui a votre attention ? Je sais que, Salman, toi, tu détestes Isos, je pense ?
Non !
Ah, le débat est lancé.
Je déteste pas Isos, mais on pourra parler de Isos, effectivement.
Parlons de Isos.
Non, ouais, mais à la limite, le contenu en français, pour commencer, effectivement. Et, voilà. Et peut-être le contenu un peu axé prod, technique, parce qu'il y a aussi les côtés plus talk, etc. Mais est-ce que vous suivez des mecs qui font de la prod, qui font du tuto, qui font de la démo, des trucs comme ça en français ?
En français ?
Ouais.
Bah effectivement, Isos un petit peu.
Voilà.
On parlait de Isos, un petit peu Isos, bien sûr.
Bah c'est un peu le Booba de la musique sur Internet. Hein.
C'est un peu le Booba du beatmaking français.
La comparaison Isos-Booba, je ne l'avais jamais entendu encore.
Il y a un truc.
Il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc.
Ouais, Isos, bah en fait, la majorité des gens, à part Isos, ils sont ici. Hein, les Chrono Music et Florent Garcia, en gros. Pour ce qui parle de vraiment de faire de la musique en contenu YouTube, je vois pas grand monde d'autre en fait à part Isos et ces deux-là.
Ouais, si, quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Non, en vrai, il y a beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression, qui font des tutos beatmaking et tout, mais c'est juste que c'est des toutes petites chaînes et que c'est pas forcément, ça rajoute pas grand chose en niveau valeur ajoutée.
Ah oui, non, moi je ne m'intéresse.
Ah ouais, tire comme ça sur les gens, toi.
Ouais, c'est pas bien. Moi je ne m'intéresse. Je m'intéresse qu'à ceux qui ont plus de 100K sur YouTube. Uniquement.
Hein. Si t'as pas le petit V, viens pas nous parler, ok ?
Et regarde s'il y a le petit macaron avant de cliquer sur la vidéo.
Est-ce qu'ils ont la plaque YouTube ? S'ils ont pas reçu la plaque YouTube, c'est même pas la peine.
Voilà.
aïe. Moi, en français, c'est vrai que je regarde. Alors, en fait, moi, souvent, je regarde des chaînes, enfin, des vidéos de production musicale quand je suis en galère pour un truc ou que j'ai envie d'avoir des infos par rapport à une catégorie de plugins. Donc, moi, c'est vrai que c'est très fonctionnel.
Ouais, et de retrouver une chaîne.
Ouais, ou voilà, pour apprendre en prod, pour, comment dire, absorber des milliards d'informations que j'ai oubliées le lendemain. Voilà. C'est très intéressant. J'essaie de me souvenir, justement, souvent, je suis tombé sur un Québécois possédé qui a une assez grosse chaîne, qui fait des vidéos à la volée sur du matos.
La machine à mixer.
La machine à mixer.
Oh, je l'aime trop, lui. Étienne Tremblay.
Il est chaud.
Très, très bien, Étienne.
J'ai appris pas mal de techniques, de petites techniques de mix sur sa chaîne.
Ouais, c'est good vibes et tout. Je regarde souvent. Bah, Florent, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Il y a aussi, en mode purement matos, c'est les sondiers, non? Ou un truc du genre. Dès qu'il y a un nouveau clavier qui sort, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est plutôt des choses de genre. Ensuite, je suis pas le plus gros consommateur de YouTube, mais c'est vrai que, en tout cas, au niveau français, c'est un peu ce que je regarde. Vu que là, la musique, ça fait un peu deux mois que je laisse de côté. Mais dès que je reprends la musique, en général, j'absorbe des milliards de tutos, je me renseigne un peu. J'achète des plugins alors que j'en ai trop et que j'en ai plus besoin, et donc je dois savoir ce qui est sorti, quoi.
Parce que toi, quand tu mates, tu vois, du contenu musique, d'ailleurs ça peut être vidéo, audio, ça peut être YouTube ou pas, tu vois, globalement c'est essentiellement autour du matos et quand t'as des besoins, ou genre ça peut être, tu vois, des discussions, des débats, des podcasts, j'en sais rien. Est-ce que t'as une consommation un peu variée, ou franchement de manière générale c'est fonctionnel comme ça, et quand t'as besoin d'un tuto tu mates, et sinon ça t'intéresse pas plus que ça, tu vois?
Ouais, c'est surtout du fonctionnel. Ensuite, que ce soit en live sur Twitch, vu que j'ai quand même connu énormément de musiciens via les raids, etc., et les avoir rencontrés au fur et à mesure, et aussi sur YouTube. Enfin, je peux me taper des couloirs de procrastination où je mate des live sets, des concerts. J'ai quand même des petites chaînes musicales que je regarde assez souvent, juste pour les petites perfs qui sortent ici et là. Ouais, donc c'est plus directement performance ou tuto, plugin, renseignement matos, et très rarement du talk et compagnie, parce que j'ai un temps illimité, on va dire.
Michel, tu mates quoi, toi? Ouais,
en français.
Ouais,
en français je regarde Isos tous les jours. Sinon, attends, je regarde, hein, parce que là en ce moment je suis dans les vidéos d'échecs, hein, ma gueule, on va pas se mancher. Ah. Je suis sur Gotham Chess et Hikaru en balle, Blitzstream. Je regarde des interviews d'MVL, je suis dans cette shit. Et sinon, en musique, en vrai, je regarde plutôt des Quinry. C'est vraiment une phrase de rappeur.
Ouais.
On en parlera, c'est intéressant, parce qu'en vrai, beaucoup de gens qui souhaitent du contenu un peu plus fouillé, etc., c'est vrai qu'il y a une telle offre en anglais que...
C'est ça, je dis Quinry, mais en vrai, je regarde Andrew Hyung, il est canadien. Comment il s'appelle, le bassiste Adam Neely, et toute la clique qui sont autour.
On en parlera,
tous des collabs entre eux, etc.
Andrew Wang, qui est devenu mon meilleur ami, hein. T'es au courant?
Allez.
Ou pas?
Oui.
C'est mon meilleur ami.
C'est
mon... ma mère. Il m'a follow, il m'a dit maintenant on est meilleurs amis.
Putain, dans la Zizi Kaka mixtape soon.
Andrew Wang dans la Zizi Kaka mixtape, ça serait un fantastique, ça.
Ah oui, mais je lui ai demandé et il m'a laissé en vue, mais c'est pas mon meilleur ami.
bientôt. Ah si, en français, il y a un truc qui m'a popé là. C'est sur Twitch notamment, c'est un franco-québécois qui vit, je sais plus, dans le 92 ou je sais pas quoi, il a un gros sous-sol énorme. Et c'est French Stallion.
Ça me dit un truc.
Je connais ce blaze.
Ouais. Ah, mais c'est pas dans un porno que j'ai vu ça?
Non. Oui, c'est l'étalon français, ça aurait pu, mais absolument pas.
Ah oui.
Et donc son stream, le label, c'est marqué genre le stream le plus the loudest stream on Twitch, donc le stream le plus lourd, le plus fort en termes de volume. Et c'est vrai qu'il faut mettre le volume à 50% quand on arrive. Et très drôle comme anecdote, en gros, c'est un Québécois qui est arrivé en France il y a pas longtemps, mais qui a les deux nationalités, et qui est maintenant une collègue dans son sous-sol d'une trentaine de grattes et tout. Et il a vraiment commencé il y a genre 3-4 ans avec Rocksmith, le truc d'apprentissage, qui est par Ubisoft d'ailleurs, à l'E3. Ils ont annoncé une version améliorée avec du suivi, etc., et un abonnement à genre 100 balles par an, un truc du genre.
Donc jeu vidéo, un peu à la Guitar Hero, où tu branches une guitare.
En gros, la gamification de l'apprentissage de la guitare. Donc avec du rendu visuel, maintenant c'est dispo même sur tablette et compagnie, où voilà, t'as toutes les cordes synchronisées par couleur, avec les glissés de slide et les numéros, etc. Plus maintenant t'auras vraiment du suivi prof, etc. Mais bon, bref, rigolo. Maintenant il joue n'importe quoi qu'on lui demande, etc. Il a si besoin, la plupart du temps il a quand même Rocksmith en fond, parce que les gens aiment bien voir le scoring, et puis là ça lui fait une interface visuelle à mettre. Et du coup, rigolo, parti de rien avec la gamification, et maintenant il shred sur n'importe quel morceau archi vénère. Il les fait tous en 100%, et même maintenant il arrive à improviser et faire ses propres solos quand il a envie de s'amuser en sortant totalement du truc. Donc c'est rigolo de voir que cet apprentissage non conventionnel a donné ça, quoi.
Et donc ce mec, il fait de la musique en direct, c'est ça?
C'est ça, il part en live, 6-7 heures par nuit, il a des milliards de memes et de petits jeux à la con, genre les courses de billes en direct, là, et celui qui gagne, il peut choisir quelle sera la prochaine musique, il lance souvent des votes en mode, bah tiens, là, j'ai envie de jouer ça de Metallica, ou ça de System of a Down, ou ça de, j'en sais rien, de The Offspring, j'en sais rien. Et paf, les gens choisissent, et puis ça remporte, il enchaîne, paf, alors là, ça va être Queen, machin truc. Et donc, il enchaîne, soit par des kiffs, soit quand il se prend un raid, il demande à la personne, ou des votes. Et donc pendant 6-7 heures, il est très énergique. Ouais, c'est rigolo à voir. C'est très très drôle à voir.
Toi, Florent, si tu devais en retenir que quelques-uns, tu vois, est-ce que déjà tu suis parfois des tutos, etc. Pareil, un peu en mode MV, tu veux un truc très fonctionnel. Vers qui tu t'orientes quand c'est le cas? Et globalement, ceux que tu kiffes, c'est qui?
Ouais, clairement, j'ai un peu la même approche que MV. C'est que bah, quand j'ai besoin d'un truc, tu cherches dans Google, et maintenant avec Google, les premiers trucs qui sortent, c'est des vidéos YouTube. Donc en général, en fait, tu tombes sur des vidéos YouTube. Donc j'ai pas forcément de référence en termes, tu vois, quand j'ai besoin de quelque chose, parce que ça peut être assez varié, quoi. Mais comme Chrono, en fait, les seuls créateurs vraiment musique que je suis, ça va être Adam Neely, Rick Beato, et cette team-là plutôt anglophone. Parce que j'aime bien leur approche, quoi, et aussi parce qu'effectivement, j'ai pas non plus trop le temps, et en français, je suis pas grand monde, en fait, au final, tu vois.
Sinon, il y a un truc aussi qui est très cool, c'est le Hollywood Reporter qui fait des Composer Roundtable.
Ouais, oui, j'ai vu ça, c'est terrible ça.
C'est en anglais encore une fois, ouais.
Ouais. C'est pas du tout.
On en parlera tout à l'heure, franchement, des trucs en anglais, mais j'aimerais juste, tu vois, qu'on mette un peu en avant les gens en français. Moi, il y a. Bon, déjà, parce que c'est le copain, sur la même chaîne que nous, il y a Harry Noiser. Qui fait, franchement, vous avez regardé déjà ou pas, les gars, ce que fait Rino?
Ah, moi je déteste, je le hais.
T'as regardé Pampan, hein? Bâtard, je le sais, mais c'est pas grave.
oui, je vois qui c'est. C'est un mec un peu. Il parle, enfin, ouais, je vois qui c'est.
Il est blanc.
Non, moi je vois pas.
Ouais, moi je connais pas non plus.
Bon, en tout cas, je vois bien.
Ouais,
vois
non,
bien.
C'est très chaud ce qu'il fait.
Sur la chaîne, donc, Monte le son, sur laquelle j'apparais aussi, et sur laquelle apparaît ce podcast aussi. Il y a donc Rinoiser qui fait vraiment des vidéos axées prod, avec différents matos. Souvent, dans un esprit assez électronique, parce que lui, c'est un musicien avant tout de la scène musique électronique. Et franchement, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on a monté ça un peu tous ensemble, etc., et de l'accompagner. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de vous savoir si, quand vous avez créé du contenu un peu comme ça, vous aviez la même démarche, mais c'était de se dire, justement, quel est le paysage, et on va essayer de faire un truc qui tue, quoi. Et je pense, franchement, bah après, je suis pas objectif, j'avoue.
Moi, je voulais juste être connu, moi.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais? Genre, quand tu t'es lancé, tu voulais juste te dire, ouais, je veux me mettre en avant? Non.
Je veux qu'on me reconnaisse dans la rue. Non, c'était le but.
Ça, c'est une connerie.
Oh, c'est bon. C'est lucide.
Non, bref.
Chrono.
Non, mais en tout cas, Rinoiser, Chrono, c'est pareil.
Comment ça?
Mais avec le masque, son affaire, elle est foutue, tu vois. Tout le monde le reconnaît effectivement dans la rue.
Stratégiquement.
Mais oui, non, regardez franchement Rinoiser, ce qu'il fait, c'est très très bien. Et oui. Si après, il y a les. Alors, c'est des plus petites chaînes, certes, mais en plus, parce qu'on est en contact, etc. Et ça dépend de chaque vidéo, et parfois, ça peut être un peu redondant, mais globalement, c'est des gens très cool et qui font, je pense, du travail de qualité. Tous les Si Facile, Brice BRC, je sais pas si vous voyez vrai. Un peu toute cette scène. Dans un autre style, il y a Le Rapporteur, pareil, bon, c'est un peu les copains, tout ça, mais qui fait des trucs très cool. Alors, c'est moi que c'est prod, tuto, etc., mais qui s'amuse un peu autour du rap, parce qu'on l'avait reçu aussi, quand même, dans ce podcast. Il y a Tai Wang qui.
Bah, c'est en fait, j'allais le.
Et qui notamment récemment a lancé en fait une autre
par
chaîne.
Par contre, ouais. Tu t'es trompé de nom, je crois.
De quoi?
C'est Tai Shin de Hai, non?
Non, non, non. Moi, je pense à Tai de Starisky.
Ouais, c'est Shin de Hai.
Son nom, c'est Tai Wang, me semble-t-il.
Ouais,
son vrai nom. Mais ah bon?
Peut-être qu'il a un pseudo à côté, je sais pas. Ou...
Ah, mais moi, je parlais de ses pseudos internet. Je connaissais pas son vrai nom de famille, je t'avoue.
Bon, en tout cas,
il lâche les dossiers, ça.
Non, non, c'est comme ça qu'il se lance sur internet. Hein,
la chaîne, c'est Starry Sky.
En tout cas, voilà.
Starry Sky maintenant. La chaîne, c'est Starry Sky. Il y a des
mais
trucs très, très chauds.
Non seulement
bah oui,
c'est un
il
très
fait
bon
partie vraiment des meilleurs.
Mais surtout, il a lancé récemment, il y a, je sais pas, il y a un mois ou deux, pas plus, une chaîne, alors qui pour l'instant a pas beaucoup d'abonnés, qui s'appelle La Chambre de Tai, je crois, où en fait, il est vraiment dans l'esprit tuto, expliquer la musique, etc. C'est complètement déconnecté ce qui se fait avec Starry Sky. Et alors, on aime ou pas, mais en tout cas, il a un vrai style, Starry, dans sa façon de parler déjà. Il est très speed, etc. Mais il a une vision, c'est global du truc. Ça dure une demi-heure, voire plus. Il aborde tous les aspects, c'est très complet. Il s'exprime bien, je trouve, en plus. Et il est assez pédagogue. Et franchement, c'est, voilà, il y a une identité qui se dégage, donc on aime ou pas, mais globalement, c'est vraiment pas mal, je vous invite à regarder.
Mais surtout, je trouve que c'est du contenu qui est assez pointu, cette chaîne-là.
Oui, ouais. C'est
vraiment pas fait pour toucher un grand public. Enfin, en tout cas, il se dit pas...
Il
regarde pas les vues sur ce moment-là, il regarde vraiment, ouais, c'est ça, il veut parler aux 1000 geeks de musique qu'il y a en francophonie et qui sont archi chauds de regarder ce truc-là, et je trouve ça trop cool comme démarche.
Mais c'est tout à fait cool, et en plus, tu vois,
putain,
je repense...
Putain, t'as raison, c'est Tai Wang, putain. Mais avant, il se faisait appeler Shin The High, c'est pour ça.
C'était un pseudo, probablement, je sais pas.
Ok.
Mais tout à l'heure, on parlait d'Isos, il faut falloir quand même qu'on s'arrête sur Isos, parce que c'est le phénomène quand même. Là, on parle un peu de tout ce qui est démo, tuto, etc. C'est quand même certainement le plus gros actuellement dans le YouTube français. Mais tu vois, même, j'en parlais tout à l'heure, hein, parce que c'est un peu les copains, mais Brice BRC, par exemple, le mec, tu vois, qui s'axe sur le chant, sur la top line, etc. On aime ou pas le style, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est cool d'avoir cette proposition. Je pense aussi, pareil pour Si Facile, qui essaye, tu sais, tous ces gens, en fait, qui, je pense, ils osent le faire, mais aussi, eux, à leur échelle, ils essaient de faire ça, d'apporter, en fait, un nouveau public, tu vois, de faciliter l'accès à la musique, etc. Et j'y suis assez sensible. Et je sais que, Florent, pareil, toi aussi, t'es assez sensible, je pense, à ce genre de truc. C'est parce que toi, c'est clairement ton contenu aussi, c'est d'essayer d'aborder, tu vois, de nouvelles personnes, de les passionner pour la musique, et d'être à la fois un peu exigeant, mais en même temps, quand même, cette conscience d'être grand public, quand même, enfin, tu vois, de...
Et puis, ouais. Isos et Florent, en fait, je pense qu'ils ont à peu près la même manière de fonctionner sur leur création de vidéos YouTube, etc. Ils sont très cadrés. Je pense que tu as vachement cadré ton processus de création, Florent.
Ouais, genre... mais Isos, c'est un autre niveau quand même.
Ah, Isos, c'est un niveau.
Pour avoir taffé avec tous ces gens. Moi, je me laisse quand même assez déborder. Tu vois, j'arrive à me poser un rythme à peu près. Tu vois, en termes de création, je sais, j'ai une ligne directrice, mais je sais jamais ce que je vais faire la semaine d'après, quoi. Je décide vraiment du thème semaine par semaine et j'arrive jamais à prendre l'avance et tout. Mais Isos, il a un niveau d'organisation en termes. Moi, c'est là où ça m'impressionne le plus, c'est quand tu vois l'organisation d'Isos, c'est un truc de malade, quoi.
Ouais, c'est très
vraiment. C'est un jeune entrepreneur.
Ah bah, ouais, putain.
En termes de productivité, c'est incroyable.
Il m'a réveillé le matin, quoi. Ouais, qui fait ça?
Juste pour ceux qui connaissent peut-être pas, parmi ceux qui nous écoutent, Isos, comment on pourrait présenter ça? C'est un peu alors dans la prod rap et beatmaking, c'est un mec qui un an, deux ans est parti de quasiment rien et aujourd'hui a un nombre d'abonnés et des vues complètement fou, quoi.
Ouais, c'est le chef, hein.
C'est quoi le secret de la réussite dans Isos à votre avis?
Déjà il est bon, c'est un bon beatmaker.
Il est beau.
Et il est très très bel homme et je pense que c'est, par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là avec Florence, et je pense que cette rigueur dans le travail, quand en plus t'es déjà bon dans ce que tu fais, tu mets une méga rigueur dans ton taf. Si tu perces pas, c'est vraiment que tu pues la merde, quoi. Y a pas de souci.
Ah, tu penses? C'est pas si évident sur YouTube, mec, aujourd'hui.
Bah,
Pandrez méritocrate, point d'interrogation.
Ah, mon gars. Alors, mais c'est genre, tu sors, parce que ses premières vidéos ont pas percé, ça a mis un petit peu de temps, hein. Ça a mis plusieurs semaines ou plusieurs mois à ce qu'il perce quand même. En fait, il a fait les bonnes vidéos sur les sujets qui font un peu cliquer, toutes les semaines, voire plusieurs par semaine pendant un moment, je crois, au début, avec une rigueur dans le taf, effectivement, qui force un peu le respect. En fait, il a mis toutes les cartes de son... Ça se dit, ça? Toutes les cartes de son côté, je crois pas. Mais il a tout mis de son côté pour que... Il a tout mis de son côté pour que, effectivement, ça fonctionne, tu vois. Il a fait ça pour que ça marche. Effectivement, ça a marché.
Ouais.
Ah, je vois, tu vois, même ça, dès sa première vidéo, il a déjà une qualité de son, il a un vrai réflexe, plusieurs plans de caméra, il y a un montage et tout. Donc, le mec dès le début, si vous dites en plus qu'il est complètement possédé niveau rythme de travail et compagnie et qu'il est plutôt bon beatmaker, entre guillemets, oui, il s'est donné toutes les chances. Ensuite, bon, percer sur Twitch et YouTube, c'est mission impossible aujourd'hui, mais bon, il y a quand même un cahier des charges à suivre qu'il a bien suivi. Et puis si en plus, voilà, il est jeune, il parle à un public jeune, si son contenu est en rapport avec ce qui fonctionne, enfin, on va dire que au fur et à mesure, tu élimines la RNG, tu élimines l'aléatoire du truc, quoi.
J'ai appris le mot RNG en regardant la Zilan, c'était très bien. T'avais un très beau costume, MV. Mais ouais, merci. Je trouve qu'il a la qualité, mais il a aussi la quantité. Je veux dire, lui, il a fait en 2 ans, il a fait plus de vidéos que moi en 6 ans, tu
Attends,
vois.
Attends, juste, c'est chez qui que ça sonne?
Attendez, je reviens. Putain, je suis en slibard, j'espère que... Attendez, je reviens.
On garde ça, garde.
Vive Andrés.
Est-ce qu'on va garder ça? C'est la grande question.
Ah, mais ça... slibard shot, c'est le money shot.
Ah, mais bien sûr, ça part dans les stories Insta, ça. Ça. Ça va être là-dessus qu'on fait la promo.
Il a un peu plus de 100 vidéos en un an et demi, deux ans. Pas mal.
Ah ouais, ouais, non, c'est...
Oh la vache, excusez-moi.
Bah, il en fait une par semaine, je pense. Hein. Ouais.
Mais bon, le truc, c'est qu'en parallèle de ça, il taffe de ouf aussi, quoi. Il fait énormément de choses. Là, il a le projet Red Bull depuis un petit moment maintenant. Il a lancé sa chaîne Twitch qui marche pas mal aussi. Je sais pas combien de fois il stream par semaine et tout, mais il fait énormément de choses aussi à côté, quoi.
Ouais, bah ouais, ouais, c'est pas un branleur, quoi. Ça, c'est... Ouais. On peut pas...
T'avais fait une vidéo avec lui, non? Il me semble que j'avais vu une vidéo de composition, justement, sous contrainte. Ouais, c'était avec lui.
Ouais, c'était ça. Ouais, ouais. Je l'avais vu à l'œuvre là, c'est en train de travailler.
Sur Isos, moi, le seul truc, mais c'est valable en fait quasiment pour tous les créateurs YouTube, c'est tu as la partie réellement production musicale, ce que tu peux apprendre, etc. Puis il y a évidemment tout l'enrobage qui est essentiel parce qu'il faut créer un personnage, il faut attacher les gens, il faut se créer une communauté fédérée, etc. Donc tu dois transmettre quelque chose. Et là après, c'est une question de goût. Moi par exemple, clairement, je suis moins client que ce que peut dégager Isos quand il fait un mode vlog, etc. Ça me touche moins, mais je pense qu'il y a une question d'âge, de personne, etc. Et c'est pas évident de trouver le... Vous avez des gens où vous dites non seulement vous aimez son contenu, mais en plus vous dites putain, ce mec il est passionnant, il est sympa, ou je sais pas, tu vois, où sa vie est cool. Enfin, est-ce que ça compte pour vous aussi?
Moi, c'est Pandres. Enfin,
j'allais dire Chronomusique.
Oh, on est trop mignon ou quoi? On est trop mignon, moi je dis.
Bah oui, il y en a plein, bien sûr. Bah, en fait, en général, c'est très lié. Quand tu suis du contenu sur Internet, tu suis pour le contenu, mais aussi pour le contenant. Putain, ça pue la merde, que je veux pas parler. Parle à ma peau, parle des choses.
Sublime. Et oui, c'est vrai, mais je trouve ça... Enfin, moi, c'est d'autant plus vrai, je trouve, c'est sur Twitch, parce que tu vois vraiment les gens au jour le jour, tu vois, au quotidien. Donc même dans la scène musique, tu vois, ils sont en live 5-6 heures, enchaîner cover, créa, répondre aux gens et compagnie. C'est vrai que sur YouTube... YouTube, c'est vrai, ça devient vrai avec des gens qui commencent à avoir de la bouteille, qui ont sorti énormément de vidéos, parce que voilà, il faut qu'il y ait tout le storytelling qui se mette en place, etc. Donc c'est pas évident. Mais je trouve que ouais, tu vois, enfin, à part sur les vidéos de musique, d'autant plus où c'est difficile. C'est moins facile de percer que sur les sujets tendances du moment, sur l'humoristique, sur le vlog traditionnel, quoi. C'est tout de suite un petit peu plus de niche, entre guillemets. Quoique, voilà, c'est très bien vulgarisé maintenant, et les gens qui trouvent que l'animateur est bon, que l'ambiance est bonne, que la prod est bonne, ils peuvent même, en étant totalement ignorants du sujet, se prendre de passion à regarder des trucs qui parlent de diverses gammes, de changements d'harmonie et compagnie.
Oui, bah
et c'est ok, tu vois. Mais
c'est exactement ça. La moitié des gens qui suivent mes streams, et je pense plus, ils font absolument pas de son. Ils en ont presque rien à foutre de ce que je raconte, en vrai. Mais c'est juste que voilà, ça les intéresse, tu vois. Enfin.
Ça, non, mais moi je fais de la zig depuis plus de 20 ans, mais je suis toujours theory ignorant, comme on dit, et je regarde quand même les trucs en mode c'est génial, j'ai l'impression de comprendre, j'essaie de faire les liens dans ma tête, mais sur YouTube c'est clair que ça c'est l'enrobage qui joue beaucoup, et c'est un peu je crois qu'il y avait quelqu'un qu'on avait fait l'émission ensemble qui avait réagi sur dans les coms, mais c'est un petit peu dommage, mais c'est l'air du temps qui veut ça. On est tous obligés de devenir un petit peu des couteaux suisses, entre guillemets. C'est difficile d'être totalement tunnel vision sur un seul aspect du créatif, parce que justement, les gens maintenant, ils ont tellement tout à dispo qu'ils sont très contents. Enfin, c'est très cool d'être un bon musicien, mais les gens, ils viennent voir une vidéo, donc ils veulent un bon musicien, ils veulent un bon orateur, ils veulent peut-être un petit peu de fun dans le truc, ils veulent une belle image, du bon son. Donc ça évidemment qu'il faut un peu allier plein de corps de métier, être performant dans pas mal de trucs, quoi.
Ouais, pardon, vas-y.
C'est aussi ça qui rend ce métier passionnant, je trouve. Ouais, le fait de faire plein de trucs, moi je pense que je me ferais chier si je faisais que du son.
Il y en a beaucoup qui aimeraient juste faire que du son, tu vois. Ouais, et ouais, du coup, ça les fait un peu chier de devoir se dire que pour percer, il faut forcément passer par tous ces bonus en plus à produire, quoi.
Et en même temps, tu vois, c'est intéressant ton cas, André, c'est parce que tu dis, voilà, que si tu faisais que du son, tu te ferais chier. Mais mine de rien, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que au début, tu étais sur YouTube, etc., un personnage public, avant tout connu pour son contenu. Et tu as réussi à capitaliser là-dessus pour vraiment développer une carrière artistique en parallèle, sur laquelle tu t'es beaucoup concentré. Tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe,
hein, parce que
je
vois
l'extérieur. Mmh. Et mine de rien, quand même, quand t'as eu la capacité librement de faire le choix, de replacer le curseur, l'équilibre sur me consacrer surtout à faire de la musique ou au contenu, t'as quand même accès sur la musique et l'artistique, tu vois. Donc
oui,
c'est pas complètement ce que dit MB.
Oui, c'est parce que ça aussi, rapporte aussi beaucoup plus d'argent. dans mon cas personnel, mais c'est vrai, en plus, c'était genre, on dirait que je rigole, mais je rigole pas. Je me suis dit, ça me prend du temps, j'aime beaucoup le faire, et en plus, je gagne beaucoup plus de thunes quand je fais du son que quand je fais des vidéos YouTube. Je t'avoue que le choix, il est assez vite fait, tu vois. Alors, je l'aurais pas fait si ça me faisait chier. Moi, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux moments de ma vie. Le moment où j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie en faisant que de la musique. C'était, je pense, c'est un moment fantastique de ma vie. Mais en même temps, je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon. Je vais faire plus que ça. Ouais, je dois faire facilement 6-7 heures de musique par jour. Hein. Donc, quand je dis que je fais pas que de la musique, si, en fait, je fais quasiment que de la musique de ma vie. Mais tu sais, le fait de faire des live Twitch avec les potos, le fait de faire le gogolito sur Twitter avec Chrono, Renard et
voilà.
Tout.
Voilà.
Et moi, je c'est considère quoi, que c'est presque
c'est
une part de mon.
Renard, ouais.
Renard, c'est ça. Ouais. Et ça fait en fait, ça fait aussi partie de mon travail. C'est indirect parce que bon, faut pas déconner, tu vois, de faire des tweets, c'est pas.
C'est en vrai, dans une époque où justement tout passe par finalement le réseau, le réseautage et compagnie, et que ta com, elle doit s'améliorer parce que il y a trop de monde. Bah finalement, ouais, tu vois, ouais, toutes ces conneries, même votre délire, toutes vos shoots sur Twitter, etc., ça participe de toute façon au lore et à te faire connaître, quoi. Donc c'est tout con, mais finalement, quand vous faites les abrutis sur Twitter, c'est la belle com.
Oh, merci.
On sent que ça a été calculé pendant
Pandrez
des années.
Pandrez est marketeux. Ça se sent.
C'est vrai, c'est vrai.
J'ai des lunettes.
Il a ses lunettes. Moi aussi, j'ai mis des lunettes aujourd'hui. Oh là là.
Oui, c'est vrai. En même temps, t'as des lunettes de rappeur.
Oui, c'est vrai.
Pas la même chose.
Moi, YouTube, ça m'a toujours effrayé, tu vois. Twitch, pour moi, c'était assez cool parce que pour moi, c'était l'extension naturelle de qui j'étais sur le canapé avec mes potes. Donc, pour moi, ça a été relativement facile à faire, même s'il y avait des émissions que je préparais à mort à l'époque où je commentais du speedrun, etc. Mais moi, YouTube, pour moi, c'est vraiment. Je trouve que c'est une quantité de travail et d'orga que je trouve relativement effrayante, surtout que prépare longtemps, tu sors, t'es dans l'inconnu, et en plus tout le stress des ayants droit, le retour du public, est-ce que tu passes en tendance? Et je sais que, en plus, voilà, pour sortir du. C'est vrai aussi vrai sur Twitch, mais pour y penser vraiment professionnellement et sortir du. Dépasser le fameux stade du. Le SMIC plus arrive et c'est bon, je peux commencer à vraiment tuner la vision dessus. Ça ne concerne que très très peu de gens, tu vois. Donc ouais, c'est énormément de travail, hein.
Bah là, de nous cinq, le plus youtubeur de nous cinq, là, maintenant, c'est Florent.
Ah oui, c'est Florent.
Genre, ouais. Florent, toi, ça s'est passé comment? Je prends ton rôle, Salman,
mais
je suis curieux.
Oui, mais c'est très bien.
Mais toi, ça s'est passé comment, cette évolution-là? Genre, par exemple, est-ce que là, tu t'en mets plein les fouilles, là? Ça y est, c'est bon? ou pas encore?
Non, clairement. Non, en vrai, je gagne bien, mais c'est pas. J'en suis pas au stade de me dire vas-y je déménage dans un truc trop stylé ou je me prends un studio à côté, tu vois, je peux pas financer à ce point-là. Et c'est ça qui est
combien
t'as un fixe? Non, bah en vrai sans déconner, j'ai pas de gêne comparé à ça, je sais pas, je crois que YouTube me rapporte à peu près entre 1000 et 1300 euros par mois en termes juste YouTube, tu vois. Après ça dépend, tu vois, tu vas avoir le mois d'août où ça va être je vais gagner 300 balles. Et les mois où ça marche bien, les mois avant Noël, où je vais gagner 1007, un truc comme ça. Mais bon, sur l'année, quand tu lisses, en fait, voilà, ça fait à peu près, ça fait ça. Mais comme d'hab, sur ce genre de trucs, ce qui te rapporte, ça va être les petits partenariats que tu vas avoir de temps en temps, avec des marques et tout. Mais, et ça, du coup, en fait, ça c'est une variable énorme. Tu vas faire des mois vachement bien, et tu vas faire des mois où tu vas juste avoir ton AdSense et ça va pas être terrible. Mais bon, si tu lis sur l'année, c'est cool. Mais le problème, voilà, c'est plus sur l'incertitude, quoi. C'est de te dire, vas-y, je gagne bien, mais s'il faut dans un an, c'est mort, donc j'ai intérêt à mettre de côté et pas le claquer direct. Et du coup, c'est dur de savoir quelle quantité réinvestir dans ton travail pour faire grossir le truc et gagner plus, et quelle quantité gagner au cas où ça va mal. C'est ça qui est un peu chiant, c'est comment gérer ton truc là-dessus. Surtout que moi, bah, comme on disait tout à l'heure pour toi, Pampan, au final, t'as fait un choix. Quand t'as pu passer musicien à plein temps, tu l'as fait. Tu vois, c'est que moi, je suis assez frustré de pas pouvoir faire plus de musique depuis un petit moment. Et tu sais pas trop quand lâcher le truc. Tu vois, quand t'as peur de te dire, bah, ça serait con de perdre ce que j'ai de ce côté-là pour aller dans l'inconnu à côté. Mais c'est vrai que là, j'essaie de faire plus de musique à côté parce qu'au final, tu te rends compte que quand t'es musicien de base, c'est vrai que c'est là où tu prends peut-être le plus de plaisir et surtout c'est là où tu peux, t'as les projets les plus sympas, en fait, au final. Parce que c'est des trucs assez solitaires. Faire des vidéos YouTube, c'est tu vas passer, moi, j'ai pas de monteur ni rien, donc j'ai passé 3 jours à monter ma vidéo chez moi, 1 jour à l'écrire, 1 jour à la tourner. Et au final, tu te dis, je rencontre personne. Enfin, c'est assez frustrant au bout d'un moment. Donc, l'équilibre entre les deux peut être assez tendu à avoir parfois, quoi, je trouve.
Il y a un sujet, parce que à la fois ce que vous aimez et à la fois vous, quand vous faites vos contenus, ça m'intéresse. C'est par rapport à, notamment à la qualité d'image, quand tu fais de la démo. Franchement, pour moi, c'est un vrai sujet. Je m'en suis rendu compte parce que là, on a tourné un truc qui sort là, ou qui sera déjà sorti d'ailleurs.
Oh là là.
Où en fait, j'ai dû me filmer en train de jouer, etc. Et en fait, j'ai d'autant plus remarqué qu'en fait, je peux vraiment être impressionné, notamment chez les Américains, mais il y a quelques Français aussi, que je peux citer d'ailleurs, qui vont vraiment, tu sais, une image, et juste où les mecs jouent, par exemple.
Mais c'est clair, t'as dit, je peux les citer, mais tu les as pas cités.
Typiquement, en français, il y a Tone Factory. Alors là,
ils ont une image de gros bâtard.
Oh, putain, c'est ouf. Alors là, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus où je donnais quelques recos, etc. Et je les avais déjà cités parce que c'est donc c'est de la démo, là très absolument qui fait l'image avec Nico Shona, donc lui qui est guitariste en fait. C'est une chaîne où en gros ça fait de la démo autour de la guitare, des amplis, des guitares, voilà. Et avec une image, mais à l'américaine. Ah, oui. C'est sublime, c'est magnifiquement filmé, la lumière est belle, c'est un super gratteux en plus. Enfin, cette chaîne, si vous aimez le côté un peu plus blues rock, etc., parce qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai, jusque-là, un peu de beatmaking, de hip-hop. Mais là, voilà, dans ce genre-là, pour moi, c'est dans le haut du panier. Et franchement, ça n'a pas à rougir face aux Américains, quoi.
Ah, clairement pas. En termes d'image et de production, c'est vraiment très, très bien, quoi. Tone Factory, c'est vraiment excellent.
Vous avez d'autres exemples?
C'est que de la démo, par contre. Enfin, c'est presque que de la démo.
Il a son matos dans les commentaires, bravo.
Voilà.
C'est un vrai photographe.
Et en fait, c'est ça, c'est qu'au-delà en fait, du matos, c'est qu'ils sont deux, donc tu as le guitariste host, etc. Et derrière, en fait, tu as un vrai professionnel de la vidéo. C'est-à-dire que c'est le métier à la base, quoi. Et ça fait la différence. Alors que, je sais pas pour vous, mais enfin, nous, c'est la débrouille. Enfin, moi, ça a toujours été la débrouille, quoi. J'ai appris sur le tas, j'ai pris, ok, je prends l'appareil, on voit.
Mais je pense que ça fait partie du charme de beaucoup de trucs aussi. T'as pas besoin d'avoir une image, tu vois, de Steven Spielberg. Au contraire, les gens, ils adorent le côté un peu. Enfin, alors, t'as une limite, à pas, tu vois, à pas, pas transgresser.
Genre, le filtre de Pendresse, c'est la limite ou pas?
S'il avait fait toutes ces vidéos comme ça, je sais pas si ça ferait marre. Mais bah, le son aussi, le son, c'est une grosse limite, tu vois. Limite, si t'as un éclairage pas ouf, un super son, ça passera mieux que l'inverse.
Bien sûr.
Mais je pense que ce côté aussi un peu fait maison, tu vois, plaît aussi aux gens. Et si tu regardes même Wulfpeck, par exemple, enfin, dans le côté musique, pas que ça, ils ont une image de merde, objectivement. Tu vois, ils filmaient à l'iPhone 4, je crois, les premiers clips et tout. Okay. Et ils continuent comme ça, à filmer comme ça. Mais en fait, c'est juste leurs pattes.
Ouais, mais ils foutaient plein de filtres dessus. Ça donnait un côté esthétisant. Enfin, tu vois, ils ont aussi travaillé comme ça.
Mais toujours est-il que c'était bricolé maison.
Ouais,
tu vois, t'avais pas un putain de directeur de la photographie derrière et tout. Oui. C'était filmé à l'iPhone avec un filtre dessus et basta. Et en fait, ça a donné une putain de personnalité. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est cool avec Internet. C'est qu'autant, si tu veux faire les choses très bien et tout, dans l'absolu, tu peux. Mais tu peux aussi te dire, bah, vas-y, je vais essayer de prendre un chemin séparé, juste de trouver une direction artistique qui me plaît vraiment et faire avec les moyens du bord, quoi.
Comme disait Aurel San dans Note pour trop tard, il disait, pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contact, c'est un truc de victime.
Oh oui.
Les gongs.
En tout cas, il faut se lancer, c'est certain. Après,
en même temps, YouTube, ouais, c'était ça qui me plaisait le plus. C'est ce qui me manque le plus, moi, dans YouTube. C'est ce côté, je fais tout. Tu sais, j'essaie de bricoler des trucs avec mes connaissances limitées et mon matos limité, et ça j'aimais bien. C'est toute la partie montage, toute la partie création, essayer de trouver des concepts un peu flingués, de les rendre intéressants. Ça
bah, ça y est toujours, mais faut diguer, quoi. Mais
oui, il parle pour lui, là, je crois.
Non, je parle pour moi. Ouais. Je parle de moi. Là.
De le faire, ouais.
Ah.
Parce que j'adore parler de moi.
C'est une époque du 360p, quoi.
Et oui.
Voilà.
C'est bon, ça.
Mais le montage, c'est en fait, moi, par exemple, dans les vidéos YouTube, ce qui m'amusait le plus, c'était faire le montage.
Est-ce que parce que là, j'ai cité Tone Factory, est-ce qu'il y a d'autres Français comme ça, où ça peut être une claque visuelle, ou alors de la très bonne démo, ça joue trop bien, ou peu importe le style, mais peut-être justement s'écarter un peu du beatmaking. Enfin, ouais, vas-y. Si,
moi, je trouve que Florent Garcia, c'est sa qualité vidéo, les moments où il joue, etc. Je trouve que les plans sont beaux, l'image est belle. C'est très chaud, je trouve.
C'est gentil. Bah, c'est très gentil.
Bon, de toute façon, tu sais que tu fais du bon taf, Florent.
J'essaie. Après, c'est toujours. Enfin, je sais pas pour vous, mais je trouve ça impossible d'avoir un jugement objectif sur ce que tu fais, tu vois. Ah, tu sais que t'as fait des efforts et que ça va.
Ah, moi, je suis objectif sur moi-même.
Non, mais voilà. Mais évidemment, si vous connaissez pas la chaîne de Florent, c'est dans le haut du panier, pareil, des vidéos autour de la musique. Et d'autant plus que moi, ce que j'apprécie avec ton contenu, c'est que tu as toujours eu cette volonté, tu sais, on en avait parlé lors de l'épisode dans lequel on t'avait reçu, de parler certes de guitare, certes de, parce qu'en général quand t'es guitariste, tu as forcément ces références rock, etc., parce que ça fait partie de la culture de cet instrument, mais l'idée d'ouvrir et de vraiment essayer de parler de la musique d'aujourd'hui et comment la guitare peut s'insérer là-dedans, d'ouvrir les esprits, etc., et je trouve que ça paraît évident comme ça, mais en fait ça s'est peu fait et je suis content de trouver ça dans tes vidéos.
Ouais, le contenu est plutôt large, c'est vrai. Même si c'est axé sur la guitare, il y a quand même un contenu qui est plutôt large.
Absolument.
Tu peux toujours trouver un peu à grailler dedans.
Et surtout, comment renouveler l'approche de la guitare, en fait. Tu vois, parce que parfois, il peut y avoir un peu le débat, est-ce que c'est foutu, etc. Ce qu'on avait fait d'ailleurs ensemble dans l'épisode. Allez regarder cet épisode, est-ce que la guitare est finie? Comment aujourd'hui on peut réinterpréter, réutiliser la guitare? Est-ce que c'est la même place qu'auparavant, etc. Et je pense qu'avec ta chaîne, tu essayes justement de dire, la guitare a encore une place, mais juste, c'est peut-être, je compare, je vous parle de comment c'était avant, je vous parle d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose, mais mine de rien, ça reste un truc important, la guitare, tu vois. Enfin,
et tu sais que même dans le hip-hop, il y a un renouveau là-dessus. On s'est rendu compte de ça avec mon gars, là, Epectase. C'est que quand on mettait de la guitare, tu sais, des solos de guitare, des trucs un peu gospel, un peu soul, un peu bluesy et tout, dans des trucs de hip-hop, on nous disait « Ah, c'est ringard !» Tu sais, il y a 5 ans, tu vois, 6 ans. « Ouais, ça fait ringue, ouais, ça fait passer de mode, machin. »
Ça fait ringue.
Ça fait ringue. On peut faire plus boomer que cette expression.
C'est compliqué, compliqué.
Mais tu vois, genre, et vraiment, vraiment, c'est un truc qui ressortait beaucoup. Moi, on me disait beaucoup, arrête de foutre de la guitare dans tes trucs, là. Ça fait musique de vieux, machin, etc. Tu vois. Wow. Et récemment, je dirais depuis 1 an, 2 ans, c'est devenu classe. Et même chez les beatmakers sur FL Studio, tu sais, vraiment, tu sais, le beatmaker qui fait des tie-beats, machin, c'est devenu classe de faire de la gratte. C'est devenu classe d'avoir une guitare, de mettre de la vraie guitare dans son...
C'est parce qu'on a eu une telle quantité, j'ai l'impression, proposée de beatmakers qui font tous de la cliquette, que, genre, pour te différencier, c'est cool si t'as d'autres skills à ajouter dans le truc. Et ouais, quand t'es instrumentiste, ça permet de rajouter une plus-value.
Ouais, oui, de fou. Même si c'est très bien de faire des prods à la cliquette aussi. Hein, y a pas
Je ne fais que, ça.
Quand t'es musicien et en tant qu'amateur musique, moi je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser, valoriser plus certains que d'autres. Par contre, la personne capable justement d'avoir un éventail large, de maîtriser plein de trucs, instrumentiste, pro 2, c'est là où ça devient intéressant, où vraiment tu admires le mec. C'est quand le type il a une palette de maîtrise impressionnante, quoi, tu vois.
Oui, ou quand il fait appel je sais qu'en ce moment là, il y a un pianiste qui s'appelle Sofiane Pamarl, mm-hmm. qu'on voit beaucoup dans le monde du hip-hop, qui est un peu le pianiste attitré du rap français. Il se fait appeler un peu de partout, tu vois. C'est devenu un peu hype d'avoir Sofiane Pamarl dans sa prod, par exemple, tu vois. Ce qui aurait peut-être pas été le cas, ou peut-être tout le monde s'en serait branlé il y a 6 ans, tu vois. Donc c'est intéressant ce petit effet de mode.
Il va y avoir de la guitare partout maintenant. Là, on l'a vu avec le 3, on le voit avec même les films et les séries. Ça y est, les années 90 deviennent hype. On est passé par la synthwave années 80, machin. Là, on revient aux années 90. Et bon, les années 90, c'était une époque où c'était que le rock à la radio et sur MTV. Donc,
c'est ça. 90, c'est même un peu début 2000. J'en parlais, j'avais fait une vidéo sur le pop punk. Et c'est vrai que t'as vraiment une espèce de renouveau du pop punk et tout en ce moment qui reprend de ouf.
Aussi, ouais.
Et du coup, effectivement, je pense que là ça va repartir sur la guitare. À de beaux jours devant elle.
Bah ouais, il n'y a pas eu le renouveau de la dance music des années 90, par contre, ça je ne l'ai pas vu passer.
C'est vrai, là.
Pas du tout.
Étrange. Un petit culture beat, un corona.
Mais quoique, dans l'hyperpop, il y a des trucs un peu comme ça. Hein.
Ah non, mais je pense que c'était une blague parce que tu t'as entendu. Non, c'était une blague ou pas, Pandresse? Parce que moi, j'en ai entendu 3 milliards, évidemment.
En dance music, parce que non, moi j'entends des trucs plutôt de Euro. Comment on appelle ça? L'Eurodance.
Ah oui, mais c'est de la dance music. Mais oui, ok.
Je parle des rythmiques, des.
Ouais, ok.
qui est, par contre, c'est effectivement chrono. Dans les sonorités, on retrouve ces horribles super-sauts dégueulasses.
Mais surtout que c'est fait de manière tellement vulgaire, tu sais, c'est limite le sample du truc qui était sorti à l'époque, quoi, tu vois.
T'as raison. Tu dis les vraies choses.
Mais ouais, les gars, là justement, c'est intéressant parce que on a rebasculé un peu sur le côté, on discute en fait un peu autour de la musique, des pratiques, des machins comme ça, etc. Et donc là, on a discuté des trucs genre démos, tutos, etc. Est-ce que vous regardez aussi du contenu ou cette fois, on joue pas de la musique, mais on parle de musique?
Bah oui, je te disais, moi, les Composer Roundtable.
En français. Et après, promis, on reviendra sur cela.
Oui, tu veux pas que j'en parle, j'ai compris.
Si, carrément. J'essaie juste d'organiser un peu. C'est un peu le bordel cet épisode, vous l'avez vu. Hein, mais c'est les 1 an, on se fait plaisir, on a des invités de qualité. Et on va là où ça nous mène.
Et à chaque fois que Chrono il parle d'un truc, on lui dit non.
Non, pas du tout, c'est juste l'anglais un peu après. Je...
Ouais, ça va.
Ouais, non, des trucs un peu talk où ça parle de musique de manière générale en français.
Bah, le code, bien sûr.
Ah, le code, ok.
Ah. Ouais, on parle, développe, Michel.
Mehdi,
t'as prévu de passer, toi. Hein. Normalement, c'est prévu. T'es invité dans le code, toi, en début d'année scolaire.
Ah, ben, disons que je mets tout en œuvre pour y parvenir. C'est-à-dire que je pompe Mehdi Maizy, je lui pompe son dard avec beaucoup de plaisir. Hein, mais,
avec ferveur.
Hein. Ah oui, avec ferveur. Non, mais en plus, vraiment, genre, pour moi, ouais, j'aime trop ce qu'il fait Mehdi Maizy.
Recontextualise un poil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Mehdi, surtout, qu'est-ce que c'est que le code, de quoi on parle?
Ben, le code, c'est la dernière émission en date de... Enfin, il y a 2 grosses émissions de Mehdi Maizy, qui est un peu le journaliste du rap qui a pignon sur rue dans ce domaine-là, et genre... Pour moi, c'est très justifié, tu vois. C'est que c'est un type qui est passionné, il arrive toujours à trouver un angle un peu intéressant et tout, tu vois. Donc,
il n'est pas clivant aussi, mine de rien. C'est une de ses qualités qui fait aussi qu'il arrive à être aussi présent, je pense. C'est que.
Ouais, voilà, de ouf.
C'est des mecs qui sont plus dans le.
Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui lui reprochent un peu plus ça. Mais en même temps, il arrive à s'entourer, tu vois. Genre, je trouve, quand il est dans sa clique avec Yérim, qui lui, pour le coup, est très clivant, ben, c'est cool. Ils ont une bonne dynamique à deux. Et du coup, voilà.
Et pourquoi le code, c'est bien en particulier? C'est le ton, c'est que c'est de l'interview, c'est ça, c'est
ouais c'est essentiellement de l'interview, et ben voilà, c'est une interview faite par un mec qui connaît son sujet, qui laisse parler les invités et qui arrive à les emmener un petit peu dans des endroits je sais pas comment dire, genre c'est surtout un passionné de rap, que ce soit sur la forme ou sur l'histoire du mouvement, tu vois. Et donc on arrive souvent à des interviews qui sont très intéressantes parce que bah, souvent les rappeurs c'est aussi des passionnés de rap pas forcément que de la technique. Donc c'est des trucs qui peuvent facilement devenir très référencés, je trouve ça très cool. Et à côté, il a Rap Jeu, qui est l'émission plus divertissement où il ramène des rappeurs et ils boivent du Red Bull et
Rap Jeu. Alors c'est si vous suivez un peu ce qui se passe sur internet et notamment si vous aimez le rap, vous avez certainement vu ce à quoi ressemble Rap Jeu. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un truc que je trouve absolument excellent, on aime ou pas ce format, mais toujours est-il que l'idée de remettre du ludique, de faire un jeu un peu sur le modèle des jeux télévisés, mais de l'intégrer à une culture sur internet d'une part et à une culture en plus qui est pas trop habituée de jouer un peu avec ces codes là, je trouve que c'est une idée excellente, c'est qu'il y a une fraîcheur en fait à travers ce format et je suis trop content de trouver ça. Il y en a pas assez en fait des formats comme ça. Et oui. Je sais pas si vous en connaissez vous, mais vous voyez où on s'amuse en fait, on joue autour de la musique, autour de la culture musicale, etc.
Oui,
ah, j'avoue, ouais, du coup.
Ah, pardon, vas-y.
Vas-y.
Non, je disais, il y a ce contre-emploi, en plus, tu sais, de la culture rap, tu sais, qui normalement était à la base très, tu sais, genre, c'est très sérieux, tu vois, le rap, c'est très, voilà. Et c'est vrai que dans Rap Jeu, on a tendance à voir des invités, un peu en dehors de leur élément. Il en parle d'ailleurs, Mehdi. Il dit qu'il y a certains rappeurs, c'est difficile de les ramener parce qu'ils ont peur de s'afficher. Ils ont peur de dire de passer pour des clowns, tu vois.
Mais c'est vrai que dans Rap Jeu, quand tu vois un H22 dans Rap Jeu, t'as l'impression un peu de voir un pitbull sur ses pattes arrière, quoi. Genre, il y a une. Je sais pas, t'as pas l'habitude de voir ce genre de truc, mais c'est très drôle.
Mais c'est dégueulasse.
Qui a sauté d'ailleurs, je crois.
Qui a sauté, oui.
À cause du
très
couteau.
Haut.
Ah, il sortait un couteau. Et...
Ouais. Oui.
Mais MV, t'allais réagir tout à l'heure.
Non, bah, j'allais réagir en disant que oui, justement, j'essayais de penser à des émissions musicales où on active un petit peu, ouais, cette carte du game show et compagnie, mais bon, il n'y a rien d'aussi fort qu'avec des rappeurs où justement l'univers se prête absolument pas. Mais j'ai pas trop de rêve, j'avoue.
C'est trop c'est l'endroit où on peut faire ça en plus, Twitch. Parce que tu vois, ça me paraît vraiment adapté, tu vois, de faire du jeu, de l'interaction.
Twitch, c'est pas impossible que ça arrive. Moi, je sais que là, on me contacte. C'est des projets dont je peux pas trop parler, mais ça commence à venir beaucoup des grosses boîtes de prod qui viennent pour justement essayer un petit peu de faire du game show ou des concepts avec vraiment des restats de la télé, du spectacle, de la comédie, du cinéma et la musique aussi. Donc, même, on voit aussi des soirées caritatives, plein de choses qui s'organisent sur Twitch. On voit des musiciens, grands spectacles de divers horizons venir. Donc oui, ultimement, de toute façon, quand tu vois les audiences que font déjà des talk shows comme Popcorn et compagnie et que tous les grands médias s'intéressent, hein, enfin, je veux dire, les grandes marques et les grands médias, comme elles se sont implantées sur YouTube, essayent de s'implanter sur Twitch depuis le confinement où le trafic du site a plus que doublé. Donc oui, on verra ce genre d'exercice. Dans l'Europe, il y a déjà DFG qui fait l'arrière-salle avec Gozulting qui est très très cool, Dr. Feelgood, donc streamer à la base de LOL, maintenant d'Among Us, de Multigaming, qui fait aussi du FIFA avec nous, qui fait plein de choses et qui donc organise de temps en temps l'arrière-salle où donc c'est justement de l'impro et il y a plein de gens qui viennent et qui enchaînent pendant 2-3 heures avec une bonne prod et tout, c'est cool. Mais là,
parce que Pandrès, tu connais aussi l'arrière-salle parce que tu participes en tant que tu balances du son, mais en gros cette émission, si je dis vous me corrigez les gars, je suis tombé quelques fois dessus, c'est du freestyle, on invite des jeunes rappeurs émergents qui viennent freestyler sur des sons donc que Pandrez envoie, et surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une partie aussi où en fait il y a des gens de l'industrie musicale qui sont aussi derrière le projet, me semble-t-il. D'ailleurs, je sais pas si réellement derrière il n'y a pas un lien avec un label ou un truc comme ça, je serais pas étonné. Je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière exactement.
Ah, ça bug, allô.
Allô. Bon, n'en parlons pas alors, mais c'est quand même un peu ce qui ressort généralement.
Non, j'en sais rien.
Mais ce qui est cool par contre, c'est que ça apporte des thématiques et une expertise, parce que parfois ça discute aussi un peu et avec des gens qui connaissent l'industrie musicale. Et donc c'est vrai que par exemple ça recoupe parfois avec des sujets que moi je peux aborder dans des vidéos ou qu'on peut aborder dans des podcasts d'une manière très différente parce que c'est pas le même public, etc. Mais il y a quand même, j'aime bien cette idée d'ouvrir aussi vers ces questions-là qui sont essentielles quand t'es juste un jeune artiste passionné, tu vois, qui mate ses mecs freestyler, tu dis ah je veux faire pareil, et d'avoir un peu en plus cette petite accroche autour de comment mener sa carrière, etc. C'est intéressant. Et donc, c'est un bon contenu, effectivement. Je suis un peu jaloux qu'ils aient fait ça. J'aimerais bien faire un truc comme ça.
En plus, c'était prod à chaque fois, Pandrez.
Non,
pas tout le temps. Okay.
En fait, j'essaie de prendre des prods de gars, soit de copains, soit de mon entourage. D'accord, okay. Parce que c'est cool, moi. C'est sympa. Ça fait un peu tourner les blases. J'essaie de faire en sorte de mettre beaucoup en avant les beatmakers, moi. Parce que c'est un peu mon rôle, moi, dans le truc. Parce que moi, niveau
rap, ton pampan.
Voilà, c'est ça. Mais en émission YouTube, par contre, qui me manque énormément, putain, c'est les Fifth Stories de Bouscapé.
Mmh. Oui.
Quelle émission, les Fifth Stories, c'était incroyable.
Oh là là. Ouais,
ça
ouais.
Me manque, je vais chialer. Oui, oui. C'était trop bien. Il te raconte, tu sais, Fifth, en gros, c'est le gars, un des créateurs de Bouscapé. Et le mec est dans le rap depuis... je dirais le début des années 2000 ou la moitié des années 2000.
C'est un journaliste rap.
C'est un journaliste rap, mais qui a commencé vraiment tout jeune. Et maintenant, en fait, il connaît tout le monde. Et donc, en fait, il t'explique par son prisme à lui comment il a vu évoluer soit tout simplement son rapport avec les rappeurs dont il va parler dans les vidéos, ou alors le rapport carrément de Bouscapé, qui est le média leader de rap en France, je pense. Avec ces rappeurs-là, des fois, c'est un peu conflictuel. Par exemple, avec Booba. La vidéo avec Booba est fantastique. Ou avec, je sais pas, moi, ouais, elles sont toutes trop bien. Celle sur Rof, elle est fantastique.
Oui.
Bref, c'est vraiment très, très bien. C'est des très longues vidéos, mais extrêmement divertissantes et intéressantes.
Oui.
Ouais, mais maintenant, t'as Julien Beats.
Et il y a Julien Beats. Je l'avais oublié.
C'est vrai.
Julien Beats, c'est le gosse qui fait des critiques rap, c'est ça?
Ah oui.
C'est ça.
C'est lui.
La relève.
La légende.
Mais sur le côté talk, et après j'aimerais bien t'entendre Florent, et parce que t'en n'as pas encore parlé, mais j'aimerais quand même en citer quelques-uns, parce que alors si on reste dans l'univers du rap, je pense qu'il y a une chaîne qu'il faut absolument découvrir. C'est pas qu'une chaîne d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais là je le fais dans le podcast, que c'est le haut du panier encore une fois aussi de ce qui se fait en France, c'est Grunt. Qui est autour de la culture hip-hop, qui produit à la fois des vidéos, à la fois des freestyles, ils font des podcasts, ils font de l'interview, c'est extrêmement intelligent à chaque fois, c'est bien filmé, c'est passionné de rap, et justement, moi, je suis méga client en l'occurrence, parce que ça mêle parfaitement, selon moi, à la fois des gens qui aiment ça, la passion, la légitimité, des bons contenus, de la qualité et de la pertinence, de la rush, l'idée d'élever le niveau, d'avoir des vraies discussions. Les podcasts, notamment, il y en a plusieurs, cherchez-les. C'est intelligent, ils s'entourent des gens aussi qui maîtrisent bien ça, pourquoi pas des universitaires, etc. Je me retrouve vachement, en fait, dans cette démarche de se dire, on va parler de musique, mais de manière un poil plus exigeante, peut-être, que dans le mainstream habituel. Et Grunt, vraiment, à checker si vous aimez le rap. Voilà.
La Grunt. Bah, d'ailleurs, il y a eu la. Ils font des sessions live un petit peu. Ils avaient.
Les Grundor.
Ouais, les Grundor. Le Grundor de Benjamin Epps, incroyable.
Oh la vache. Fantastique. Oui.
Toi, Florent, t'en as un peu des trucs un peu plus stock où ça parle de musique, où tu kiffes.
En français.
Pas en français.
En français, assez peu. Je dirais, dans d'autres styles, il y a peut-être Wax, tu vois, qui fait ça avec Fanzine. Mm-hmm. Mais c'est un peu le seul, en fait, un survivant, j'ai l'impression. Tu vois, il avait son émission avec PV Nova aussi à la base, comité, je me rappelle, reprises, c'était... ouais, c'est ça, comité des reprises. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression là, que, bah, vu qu'en France, la scène est tellement, tu vois, bouffée, entre guillemets, par le rap, j'ai l'impression que le plus gros du contenu que tu trouves, c'est clairement orienté rap, quoi. Et t'as très peu d'autres. Et même Wax, en fait, souvent, il invite des rappeurs. Absolument. Ou il fait un mélange des deux, quoi.
Après, ça, c'est spécifique à YouTube, mais peut-être pas à tout le web en réalité, et notamment au web qui est fait aussi par des gens qui ne sont pas forcément du web ou des choses de télé, parce que, pareil, j'avais conseillé un peu autour du talk, etc. T'as une émission qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est excellente, produite par Radio France, qui existe aussi en vidéo, qui s'appelait Vinyl. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ouais.
Oui, quelque chose, Vinyl. Hein.
C'est une des émissions d'une grande, grande, grande qualité, vraiment. Regardez ça. C'est de l'interview à chaque fois, donc avec un artiste, ça peut être... une personne de la, vraiment, voilà, une personnalité, mais pas forcément de la musique d'ailleurs, et qui vient, en fait, il l'invite, à l'époque, c'était dans la bibliothèque de Radio France, où il y avait tous les vinyles, etc. Puis après, ils l'ont fait aussi dans une autre médiathèque, je sais plus exactement où, à chaque fois dans un lieu vraiment exceptionnel déjà, bien filmé, et où, en fait, on retrace la vie de la personne à travers des albums qu'il aime, etc., son rapport à la musique. Ça peut même être des hommes politiques, des journalistes, des choses comme ça, et avec toujours une sensibilité de l'intelligence, et l'idée vraiment de dire que moi, un truc qui me touche en général, c'est, je sais pas s'ils le disent pas comme ça, mais c'est la musique, c'est plus que de la musique. C'est, tu vois, c'est comment ça accompagne une vie, comment ça, et ça, cette émission, elle fait vraiment ressortir ça, et je vous invite à regarder. Ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, mais il y en a plein de dispo sur internet, on peut les trouver. Vinyl, tout simplement, produit par Radio France, a été diffusé à plein d'endroits très différents.
Et c'est vrai que c'était cool. Il y avait un épisode avec Jamel Debbouze, je pense que j'avais vu.
Ouais.
Il y avait quoi? Vinyl. Ouais, c'est avec Zazie.
Avec Zazie. Moi, j'en avais vu un qui, par exemple, alors c'est un personnage un peu clivant en plus, mais moi, j'avais été touché par cet épisode parce que c'était complètement à contre-emploi. Il y en a un avec Edoui Plenel, par exemple. Vous voyez, le fondateur de Mediapart, journaliste, etc. Donc, il a des positions politiques, il peut être critiqué par certains. Mais au-delà même de tout ça, de faire venir ce personnage et de lui faire parler de musique, il chante à un moment, par exemple, etc. Et il y a un truc très touchant. Et globalement, cette émission, elle est propice, en fait, à ces moments-là. Et
il n'y a pas d'épisode avec Éric Zemmour, par contre. Non,
pas regarder. À ma connaissance.
J'en vois pas.
mais très cool, Vinyl, regardez ça. Et, pareil, ne jamais quand même sous-estimer la radio et ce qu'on fait en télé, parce que Vinyl, donc, ça vient de là. Mais tout ce que fait aussi une émission comme Pop & Co, qui passe sur France Inter, c'est très intéressant autour de la musique.
C'est vrai que la radio est encore vachement utilisé, hein. J'ai vu ça dans une vidéo récemment de toi.
Tu regardes mes vidéos, ça me fait plaisir.
Ah, écoute, hein, je t'avoue, j'ai glissé, peut-être. Mais ouais, en fait, ça m'a surpris. À un moment, tu dis, je crois que c'était sur la qualité des streams, enfin de l'audio dans le streaming. Et en fait, la quantité, ça m'a surpris, la quantité de gens qui continuent d'écouter la musique à la radio, en fait.
Bien sûr. C'est le premier vecteur de découverte musicale en France, encore, la radio. C'est le truc qui... Alors après, évidemment, quand tu prends une population plus jeune, ça réduit de ouf. Mais si tu prends sur l'ensemble de la population, la radio, c'est un truc essentiel encore aujourd'hui.
Pour découvrir, en fait, je pense que les gens écoutent la radio dans leur bagnole, en fait.
Bien sûr.
Ah oui, principalement.
Non, mais ça accompagne la vie des gens, la radio. C'est pour ça que c'est un média fantastique, d'ailleurs. Mmh. Tu fais ta vaisselle, ce que le podcast essaye de faire aussi d'une certaine manière. Mais la radio, t'as juste à brancher, les postes sont déjà dans les bagnoles, effectivement.
Moi, quand je fais ma vaisselle, je mets des streams de Mister MV.
Voilà.
Sur mon petit téléphone, comme ça, hop, mon iPhone 12 Pro Max, je le pose comme ça.
Ah, on est là.
Je fais ma vaisselle et je regarde les streamings comme ceci. C'est incroyable.
Je suis très touché.
Mais c'est vrai que je fais ça, moi. J'ai toujours mon petit téléphone et je mate Twitch, en fait, moi, quand je fais des trucs chiants. Quand je range le linge, par exemple.
Bien entendu. J'avoue, la radio, j'ai lâché aussi. Mais à chaque fois, c'est souvenir de vacances, la radio.
Et vous êtes pas... J'ai l'impression que finalement, vous écoutez peut-être pas tant de Florent, MV, Pendrez et Chrono un petit peu, mais tant de talk en français autour de la musique, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes juste
je
des
entreprises? Je déteste entendre des gens parler.
Sauf quand c'est toi ou moi.
Voilà. Non, mais le truc, c'est on a ce truc aussi de... Alors, au bout d'un moment, notre temps de cerveau est limité. Déjà que j'en donne beaucoup à Coca, Red Bull et tout ça, je peux pas non plus tout suivre, tu vois. Donc forcément, on fait des choix et je sais pas si t'es au courant, mais on travaille sur un projet qui est soit légendaire, soit une escroquerie. Donc on a déjà pas beaucoup de temps. Donc voilà, on a...
Oui, mais au-delà des derniers mois, en fait, parce que je comprends le truc du temps, mais aussi question d'habitude et de ce qu'on attend, etc. C'est pas... Oui. Après, c'est peut-être une question de culture radio, j'en sais rien d'ailleurs, parce que ça vient beaucoup de ça en général, c'est d'aimer écouter des émissions, les gens parlent, etc.
Ouais, et puis il y a aussi le fait que mine de rien, enfin, je sais pas pour toi, MV, mais je pense que c'est même pire que moi, t'es très 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 occupé. Et je pense que les instants que t'as off aussi, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, soit j'ai juste envie d'un peu de vide. Parce que mine de rien, on a des boulots qui font qu'on est toujours connecté, qu'on est toujours un petit peu à pas regarder tes stats, mais un petit peu quand même, tu vois, toujours un peu le regard des gens et tout. Donc moi, j'aime bien soit juste décrocher un petit peu, soit consommer des trucs qui parlent de complètement autre chose.
Bah tu oui, vois, c'est
qui
ça.
Va parler, voilà. Et juste, voilà, au moins, je me sors de la bulle du truc. Et donc, c'est ce qui fait qu'au final, j'ai pas tant de temps que ça à accorder à du contenu... musical, francophone, tu vois, genre, c'est vachement ciblé quand même ce dont on parle là. Et même parfois quand je consomme, je préfère consommer en anglais, en fait, des contenus anglais parce que j'ai moins l'impression d'être dans cette bulle de France où en fait, c'est pas si gros que ça, le monde de la musique en France et tout, surtout le monde de la vulgarisation, des journalistes et tout. Donc c'est cool de sortir. Moi, je sais que c'est comme ça que je le prends aussi un peu. C'est pour ça que j'en consomme peut-être pas énormément. Parce que sur le montant libre, j'ai envie juste de me sortir du truc, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je comprends.
C'est vrai que, bah oui, le temps libre, j'en ai peu. Et en plus, je reste quand même un procrastinateur de ouf et je dors très peu. Et en général, justement, quand je fais mes trucs, ou en ce moment, je rejoue à Hearthstone, c'est terrible. Mais quand je suis en train de faire des activités, entre guillemets, de off-stream, juste pour me relaxer, en général, je mets à côté pas mal de streams ou de la vidéo qui, justement, me demandent pas énormément d'attention. Donc, c'est clair que dès que tu... Le podcast ou bien une discussion sur la musique qui sera forcément un minimum pointu, c'est vrai que du coup il faut être disponible, quoi. Faut le temps de cerveau disponible, comme si tu lisais un bouquin, etc. Et donc c'est vrai que prendre le temps, moi j'essaie de temps en temps maintenant de prendre des pauses vraiment où je me dis tiens, pendant 20 minutes je me pose dehors, je lâche tout, je crue cuit au soleil et je pense à rien. Mais la plupart du temps, ouais, je vais tout le temps être en train de faire quelque chose de mes mains et je me mets des choses qui peuvent un peu passer en fond ou que je peux regarder par intermittence, ce qui n'est pas le cas avec une discussion ou un talk avec plusieurs intervenants, quoi.
Genre les anges de la télé-réalité, ce genre de choses là que tu regardes,
à part les premiers Love Story il y a des 20 ans plus, je ne suis pas consommateur de télé-réalité pour me vider le cerveau.
Mais ça nous rappelle une discussion qu'on avait eue avec MV, tu vois, par exemple, c'est exactement ça en fait, hein, c'est... Maintenant, je fais de la musique tous les jours, moi. Donc, je sais pas, ouais, 7 heures par jour, 8 heures par jour, j'en sais rien. Et avant, c'était ma passion. C'était pas du tout mon travail. J'en faisais beaucoup moins parce que j'avais un autre métier, machin, etc. Et donc, quand je faisais de la musique, ça me vidait l'esprit, tu vois. Ça me donnait l'impression que, voilà, hop, là, on met de côté le métier, le taf, machin, etc. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, quand je fais de la musique, je fais ça sérieusement. Donc, c'est vrai que ça a tendance à me fatiguer au bout d'un moment. Et donc, maintenant... J'ai une autre passion qui me permet de me vider l'esprit. En l'occurrence, c'est le jeu vidéo, etc. Ces conneries-là, tu vois. La musique ne me vide plus spécialement... Enfin, ces conneries, c'est pas des conneries, c'est fantastique, le jeu vidéo. Si j'étais pas musicien, je serais pro-gamer.
Voilà.
Mais je pense que c'est important, effectivement, dans tout type de métier passion. Parce que streamer, c'est un métier passion. Je pense que youtubeur, c'est un métier passion. Musicien, c'est un métier passion. Et ben, d'avoir un hobby... qui te permet de faire ça.
Tu dois te retrouver des passions en plus.
C'est un peu ça. Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi, genre, je fais de la musique 8 heures par jour depuis, depuis 10 piges. Genre, en fait, ouais, je consomme quand même beaucoup de trucs, ne serait-ce que pour être à jour sur les plugins, sur les techniques, sur l'actu musicale et tout ça. Mais l'essentiel de mon temps libre, ben là, en ce moment, je suis sur les échecs. Avant, c'était quoi je sais pas, j'oublie tout, mais...
la masturbation un peu, non?
Je me branle pas mal, mais je continue. Je me réserve toujours 2-3 heures par jour quand même pour faire ça. Donc moi aussi, comme MV, je dors peu. Je suis prêt à sacrifier mon temps de sommeil pour me branler là-dessus, y a pas de souci.
Très, très, très bien.
Mais sinon, ouais, Netflix en balle... Je sais pas ce que j'ai regardé Queen's Gambit. Je sais pas si vous connaissez Queen's Gambit.
Ah, non, pas du tout. Pas du tout.
C'est reparti, putain.
Voilà. Netflix, moi, c'est en famille, tu vois. Alors moi, je sais que j'ai un catalogue. Enfin, j'ai un catalogue de films, de classiques que j'ai loupé, que je veux rattraper, tu vois. Et je me dis en plus, enfin, quoi de mieux que de grands films ou de choses comme ça pour justement avoir d'autres idées un petit peu, hein, comme un livre, quoi, un petit peu pour donner des étincelles de créativité et tout. Mais voilà, rien que le fait de me dire là, tu stops, tu te poses de à mater un film, j'y arrive même pas, donc c'est peine perdue.
J'ai un peu ça aussi, c'est pour ça que ce que je fais moi, c'est que j'ai deux écrans, Binding of Isaac sur l'écran de droite et un film d'horreur sur l'écran de gauche. Alors j'ai vu tous les films d'horreur de Netflix et tous les films d'horreur de Prime Video, et donc je me suis pris un abonnement à Shadows, qui est un, alors c'est pas un placement de produit, mais qui est une sorte de Netflix avec que des films d'horreur bien.
Ah,
bien.
Oh là là.
Stylé. Et je, et je les enchaîne, et en même temps je fais d'horribles runs sur Binding of Isaac.
Oh, c'est vraiment dans l'horreur, quoi.
Et t'es censé reposer ton cerveau, mais ça t'exploses pas avec les
c'est encore une phase.
Non, mais ça, c'est un truc de zèbre, c'est vraiment
Oui, c'est la zébritude en balle.
D'ailleurs, qui est un zèbre ici? Levez la main.
C'est quand tu peux faire deux trucs en même temps, c'est ça?
Tu connais,
non,
pas,
tu connais pas les zèbres?
C'est quoi les zèbres?
Bah, je vous recommande à tous une chanson qui s'appelle « Je suis un zèbre ».
C'est incroyable.
On va peut-être passer, les gars, au contenu anglophone, parce que j'ai l'impression que là, il y a de quoi dire. J'aimerais quand même citer avant, parce que on parlait des contenus français, et je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être cités encore. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais les productions vidéo d'Arte, c'est un truc bateau à dire, mais Arte, il y a plein de trucs autour de la musique, en fait. Ne serait-ce que Arte Concert, il y a plein de trucs super cool. Arte Radio, moins connu, mais excellent. Je sais pas, vous connaissez un peu Arte Radio, vous, pas du tout?
Pas du tout.
En fait, figurez-vous que, alors c'est une entité différente de Arte, c'est la même structure en réalité, mais c'est des équipes complètement différentes, etc. Et c'est que de la production audio, en fait, que de la production sonore. Et c'est des gens parmi les pionniers vraiment de la production sonore en France de qualité sur le web. Et ils font parfois sur plein de sujets, en fait, et à chaque fois avec ce savoir-faire qui vient justement, je pense, un peu de la culture radio, etc. Et c'est du contenu de ouf, et il y en a autour de la musique. Ils ont fait des trucs géniaux, par exemple, autour de la police, autour du crack, etc. Alors là, c'est des documentaires, en fait, audio, vraiment immergés, absolument incroyables, en plusieurs épisodes, avec Braqueurs aussi, un épisode sur les Braqueurs.
Ah, je suis tombé dessus. Oui, je vois.
C'est vraiment de la création sonore de qualité folle, et parfois autour de la musique. Je pense notamment à une série qui s'appelle Beatmakers, il y a deux saisons où ils vont voir un mec qui a écrit un grand tube, composé un grand tube, et il parle en fait de comment ça s'est passé à l'époque, etc., pour créer ce tube-là. C'est vraiment... Arte, vous connaissez, Arte Radio, si vous ne connaissez pas, allez checker, parce que c'est absolument exceptionnel de manière générale, et en plus, il y a du bon contenu musique. Arte Radio, les gars.
Arte Radio, on est là, on est là.
Et puis, quand même, dernier petit truc aussi, parce que c'est un peu moins connu aussi, quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est business autour de la musique et tout, je ne sais pas si vous connaissez un podcast qui s'appelle Explizic. Ça dure 5 minutes, c'est très court. Et je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a un épisode par semaine, je crois, un truc comme ça, où en fait, à chaque fois, c'est un peu une actu autour de l'industrie musicale, des bouleversements de l'industrie, etc., de ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est très bien résumé, le mec a une voix super chill, etc. Super pour se tenir au courant, voilà, sans prendre trop de temps, justement, sans avoir à faire une grosse veille sur comment ça se passe un peu le business de la musique.
Ok. J'ai tant de trucs à noter. Je suis là.
Les gars, avant qu'on passe à la version, contenu en anglais, des derniers trucs peut-être à citer en français qui vous tiennent à cœur, où on est bon, on passe à l'anglais.
On a d'office oublié des trucs, hein, mais.
Ouais, il y avait le, comme je t'avais dit.
OMV.
Off, il y a Afterbeat, After Espace BIT, principalement sur la musique autour du jeu vidéo à la base, ils ont été sur un duo français qui était sur jeuxvideo.com et.
Oh putain, oui, c'est
sur Gamecube par la suite.
C'était trop bien.
Et qui maintenant font du jeu vidéo aussi et ils sortent un jeu vidéo musical, là. Et c'est très très cool. Il y a des sujets de fond, il y a quelques interviews avec des badass du milieu et puis juste de l'explication de manière générale, et vu qu'ils sont musiciens aussi, des fois ils terminent avec quelques covers à eux et tout, c'est très propre.
Ouais, nice. J'en ai déjà cité plein, mais en fait j'aime bien, je crois, le contenu musique. Discorama de notre ami Toxic Avenger, qui est très très sympa podcast.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore écouté.
Ouais, c'est très très cool. Évidemment, que ce soit pour l'écrit ou les vidéos, franchement, les qualités sont variables, mais il y a quand même toujours des trucs à piocher chez Audiofanzine, quand même. Et puis les articles, de toute façon, les tests, etc. Quand vous faites du son, c'est toujours très intéressant. Donc, penchez-vous sur Audiofanzine, évidemment. On a évoqué rapidement, mais en parlant, parce qu'en plus, on les connaît, ils sont sympas, les sondiers, je sais plus qui en avait parlé.
Oui, j'en ai parlé.
Alors, très axé synthé, axé un petit peu old school aussi dans l'approche, etc. Mais des gens passionnés qui bossent de ouf, qui font des très belles vidéos autour du matos. Donc, cool aussi, les sondiers. Bon, voilà. On en a certainement oublié, excusez-nous, en plus si c'est des amis, des connaissances, etc. Désolé,
aussi,
mais...
Allez, je rajoute une dernière. Vu que Florent avait parlé de Wax aussi, pour parler des anciens, il y a PV Nova aussi,
bah oui,
qui sur Twitch aussi, en plus de toutes ses vidéos, fait des lives assez sympas, ouais, où justement il essaye de partir, il se donne une contrainte de temps et il essaye de reproduire des musiques par rapport à un thème, une bande-annonce, un style de film, un genre, et il explique tout son process, c'est assez cool à suivre.
C'est cool, ouais,
c'est très cool. Ouais.
Et il écoute aussi les prods de ses abonnés.
Oui, exact. Je l'ai regardé la dernière fois, il faisait ça. Ouais.
C'est pas mal, ça change de ce que je peux faire moi sur Twitch, parce que moi c'est quasiment que du hip-hop ou de l'électro, et lui il a vraiment de tout, il a du prog, des fois on lui envoie du fusion, des fois on lui envoie du juste du rock, indie, machin, donc c'est cool, ça change. C'est un des seuls pour le coup qui a vraiment ce créneau-là sur Twitch français.
Vous voulez que je vous dise, les gars, quand j'ai vu les premiers lives de PV, en fait franchement le Twitch musical, j'avoue que de manière générale je suis moyennement client, je trouve ça rarement un peu bossé, etc., où t'apprends vraiment des trucs, tu vois.
Comment
ça,
très bien.
Je suis désolé.
T'es pas abonné à la chaîne de Chrono et Pampan?
Non, désolé.
C'est...
Aïe, aïe, aïe.
Mais je suis abonné individuellement à chacune de vos chaînes, par contre.
Ah, c'est très gentil. Mais la chaîne de Chrono et Pampan, logiquement...
C'est la chaîne à suivre en 2021.
C'est la chaîne...
Non, mais sincèrement, par rapport à PV, qui était beaucoup moins actif, c'est vrai, sur YouTube, parce qu'il a plein d'autres activités en général à côté. Et en fait, quand il a débarqué sur Twitch, ça m'a fait un plaisir de fou, parce qu'il y a mis les moyens, en fait.
Ouais, c'est produit. C'est très produit.
Il s'est bossé un setup de malade. Il fait des trucs sérieux. C'est un bon pédagogue, etc. Et franchement, j'ai vraiment... allez, effectivement, s'il y a un contenu à voir musical sur Twitch, un peu côté pédago, etc., franchement, c'est PV Nova. C'est... Florent aussi, et puis aussi Chrono, ouais, et puis aussi Pampan.
Non mais lui, enfin, PV, il stream, il stream 3 fois par semaine, ouais, c'est ultra propre, Nova, il a son planning.
Ouais, pourquoi, qu'est-ce que je fous là? PV, il est où là?
Un bit PV Nova? Il est où?
Mais l'invitation est déjà lancée, et il va venir, il va venir.
Non, ouais. Ok.
Non, il va venir, mais il faut juste qu'on calme.
C'est cool aussi pour l'histoire de voir, voilà, un créateur comme ça qui a fait plein de projets, qui a fait plein de collabs avec plein de rostas, qui a fait des vidéos avec des millions et des millions de vues, le voir spontanément bien bosser un truc, même si voilà, c'est l'audience est plus intimiste, et ouais, c'est vraiment propre, carré, on voit qu'il est toujours aussi passionné et à fond dedans, quoi.
Oui,
donc
oui,
c'est cool.
Et vraiment, la production est fou, hein, elle est folle. Et il a mis je sais pas combien de caméras, et des caméras haut de gamme de ouf, il a un plan direct clavier, un plan sur lui.
Non, il s'est cassé le cul, c'est top.
Il s'est fait une petite régie, il m'avait montré. C'est très produit. Il devrait faire plus de vues. Hein. Enfin, il devrait avoir une plus grosse audience.
Ça va venir, c'est assez récent quand même, il me semble. Quand même,
ça fait à peu près 6 mois peut-être. Un peu moins d'un an, je pense.
Ok, super les gars. Allez, on passe au contenu en anglais. Qui veut se lancer? Peut-être on revient un peu comme on a fait tout à l'heure. Soit on balance en vrac, mais peut-être d'abord commencer avec le côté un peu prod, tuto, etc. Puis après, si vous écoutez aussi les TikTok, mais j'ai l'impression que c'est moins vos claques en anglais, les trucs qu'on ne peut pas passer à côté, qu'est-ce qu'il faut mater? Qui veut se lancer?
Allez-y. Moi, il y a des noms, il y a des noms qui sont tellement convenus, qui vont un peu revenir. Mais bon, c'est très très con. Mais voilà, un peu une des restas de la musique sur YouTube US, c'est Andrew Wang et un peu toute la troupe qui tourne autour. C'est des vidéos qui sont très accessibles, extrêmement produites. Il est archi bosseur. Il y a toujours du contenu, que ça soit de la présentation de petits projets à lui, de VST. Hein, souvent, ces VOD, ces vidéos sont sponsorisées par des sorties de matos ou de software, et aussi ça va, c'est séries très très cool, des four producers qui flippent à one sample ou etc.
Arrêtons-nous sur ce genre de délire, parce que effectivement, par exemple sur la chaîne, on a envie de faire des trucs comme ça parce que il faut s'inspirer quand t'as un aussi bon concept.
Bien sûr.
En gros, tu pars, vas-y MV, peut-être juste tu peux nous expliquer ce concept. Et j'adore celui aussi, tu sais, où t'as une vidéo en fait, et ils sont plusieurs à faire un générique dessus.
Ils ont fait ça récemment sur un générique de d'opening de science-fiction, ouais, de série science-fiction. Mais en gros, en gros le principe est simple, c'est on prend quatre producteurs ou beatmakers etc. qui viennent de milieux différents, et on leur propose un sample en général qui peut être une ouverture au piano de 30 secondes, et ils en font ce qu'ils veulent, ils le retournent dans tous les sens, etc. Et chacun explique son process, il y a un peu de, on voit un peu des dos, eux s'enregistrer, etc. Ils expliquent ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont tordu, pourquoi, ce qu'ils ont rajouté, pensé, etc. Et ensuite, on a juste après que le producteur ait un petit peu expliqué son process et montré, on écoute la prod avec évidemment le react des autres prods qui sont en général, c'est trop ouf. Et en vrai, la plupart du temps, vu que c'est pas des peintres, c'est souvent trop ouf. Extrêmement bien produit, et c'est super spectaculaire même pour les néophytes. C'est très intéressant même côté pro pour voir un petit peu ces génies à l'œuvre, et c'est toujours très cool. D'ailleurs récemment ils en ont fait un avec Jamie Lydell, anciennement de chez Warp Records, que j'adore, qui a une voix de ouf, qui à la base fait de l'électro déjanté, puis qui est passé par des phases soul et compagnie, qui fait plein de choses. Et ouais, c'est toujours des beaux noms, l'image est incroyable, la prod est folle, les sons sont fous. Donc ouais, c'est la chaîne grand public en général que tout le monde va voir, et qu'il fait très bien sa com sur tous les réseaux, etc.
Et j'en profite avant de prendre vos avis à tous sur Andrew Wang, ou si vous voulez compléter, je lance l'invitation, parce que vraiment le principe là de composer chacun à l'image un même visuel initial, un générique, une vidéo, etc. Puis chacun l'interprète, fait un truc. On va vraiment essayer de faire ce concept. Vous êtes l'invitation est lancée si vous voulez un de ces jours participer à ça. Tu vois, c'est une vidéo, et chacun après en mode battle propose un truc, on compare tout, on react, etc. Je pense que ça peut être une tuerie absolue. Ce sera moins bien fait évidemment qu'Andrew, mais si vous êtes chaud, on va se faire ça.
Bah, on parlait de Tai Wang tout à l'heure. Il l'a fait.
Alors, c'est vrai.
Pas la vidéo, mais au son, tu sais, c'était chacun utilise le même sample. Il l'avait fait avec 4 ou 5 producteurs.
Et globalement, les défis musicaux, souvent Starry Sky et Tai, ils adorent ce truc, et c'est vrai que c'est
il
cool.
Il s'est fait comme ça, ouais.
Ouais.
Mais lui, il l'a déjà fait. Et chez...
J'ai participé, moi d'ailleurs, à ça.
Ah, tu participais, c'est vrai, putain. Mais
ouais. Eh oui.
Sur le contenu anglais, est-ce que quelqu'un voulait rajouter des trucs sur Andrew Wang, ou alors passer à un autre que vous kiffez?
Si, moi je peux dire quand même Andrew, là en ce moment il est dans une vibe où il a fait un concept semi-fiction où il est parti dans l'espace, et je trouve ça cool qu'il fasse ce truc là. Je suis pas spécialement client de la tournure que prend le truc, mais je trouve ça vraiment cool qu'il essaye de sortir du cadre classique de « Salut, je suis dans ma chambre, je fais des trucs et tout ça ». Surtout que il a les moyens de le faire, il a des idées créatives et tout ça, tu vois, donc c'est vraiment cool. Et sinon, ouais, moi j'ai essayé de placer deux fois
allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Roundtable, qui est des tables rondes de compositeurs de musique de film. Alors, t'en as une qui est assez all-star avec Hans Zimmer, Danny Elfman et tout ça, qui est assez incroyable. Et je trouve ça assez édifiant de voir tous ces gens qui font le même métier, parce que c'est encore plus spécifique que juste musicien, artiste, etc. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience en commun, tu vois ce que je veux dire. Genre, ils sont tous à Hollywood, à travailler sur des blockbusters, etc., tu vois. Et de voir l'immense différence de perspective qu'il peut y avoir entre tous ces compositeurs-là, je trouvais ça super intéressant, au-delà du fait que, ils sont tous archi balèzes dans leur domaine et voilà, mais genre typiquement le rapport qu'a un Hans Zimmer à sa carrière et celui d'un Danny Elfman, alors qu'ils ont plus ou moins la même ancienneté, ils ont plus ou moins le même nombre de films au compteur, Genre, ils ne le vivent pas du tout de la même façon. Et ce truc-là, c'est super intéressant à voir. Et puis, ben voilà, ça parle globalement de l'industrie, de la musique de film, de comment ça se déroule, de composer de la musique pour un film et tout. Donc, c'est...
Tu nous rappelles comment ça s'appelle ?
Ça m'intéresse.
C'est sur Hollywood Reporter et ça s'appelle Composers Roundtables.
En fait, de base, vu que c'est centré sur le Hollywood Reporter, c'est sur le cinéma. Et donc, tu as la même chose avec des réalisateurs, avec des acteurs. Et du coup, avec des compositeurs de musique de film. Et effectivement, c'est super, super intéressant. Et t'as Junkie XL aussi, d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Je sais pas si vous matez.
Non.
Junkie XL, ça fait longtemps que j'ai pas maté de ses contenus.
Ah oui, c'est
parce
vrai.
Que sa chaîne est super cool. En plus, il fait pas tant de vues que ça et tout. Mais c'est, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est entre autres lui qui a fait la musique de Mad Max, Deadpool, à peu près tout. Je sais pas. Maintenant, il bosse pas mal avec Hans Zimmer et tout. Et il a une chaîne où, en gros, il monte son studio. Il a un studio incroyable, une collection de synthés incroyable, du matos à pas savoir quoi en foutre. Et c'est super intéressant, toute sa vidéo sur Mad Max où il montre comment il a fait la partie guitare du mec qui joue de la guitare dans Mad Max et dans le film. Enfin, c'est super intéressant. C'est très, très cool.
Ah oui, je vois qu'il a une grosse série Studio Time où vraiment il décrypte tout. Ouais, ça a l'air très, très cool.
Dans le même genre, vous avez encore d'autres... Pendresse, on n'a pas encore donné. Ouais, MV, on viendra à 3, mais Pendresse, peut-être.
Ouais, c'est sur Twitch. Il y a Kenny Beats, que je trouve ouf. Ah.
Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est un Américain, c'est un beatmaker américain, mais très chaud, qui est connu pour être très chaud, qui est un putain de musicien à la base, mais qui fait des prods de plus en plus simples en vrai, mais c'est très très chaud. Et il y a sur YouTube, il y a des extraits qui ont vachement buzzé. Il avait fait un truc avec T-Pain. C'est merveilleux, où en fait tu les vois juste composer le morceau ensemble, puis donc dans son studio qui est ouf, puis ensuite trouver la top line, trouver le texte, enregistrer le truc, machin. C'est vraiment stylé. Il organise
T-Pain
aussi des...
qui est sur Twitch hein, aussi d'ailleurs.
T'as dit quoi ? T-Pain qui est aussi sur Twitch, effectivement. Ouais. Effectivement.
Très énergique, très très cool.
Il est cool. Et ce qui est marrant, c'est que tu sais, c'est pas des jeunes. Tu vois, Kenny Beats, il est plus vieux que moi. Genre T-Pain, on n'en parle pas, tu vois. Et pourtant, les codes de Twitch sont très très bien appliqués. Donc c'est très rafraîchissant et musicalement c'est super intéressant. Les streams de Kenny Beats sont vraiment chauds. Anomaly aussi, je sais pas si vous écoutez ce mec-là. C'est un Canadien, je crois. Et Anomaly, c'est un putain de musicien, un claviériste de génie et aussi un sound designer de génie. Il est sur Ableton. C'est vraiment vraiment chaud. Et lui fait des
streams.
J'aimerais bien
qu'on le reçoive dans le podcast.
Alors il est francophone.
Il est francophone, il me semble.
Ouais.
Ah, c'est fantastique. Ouais. Et lui, il a des streams. Et pour le coup, lui, il a vraiment pas grand monde qui suit ce qu'il fait. Tu sais, il fait des streams. C'est très, très intimiste. Il y a, je sais pas, 100 viewers, peut-être 200, je sais pas. C'est pas rien. Hein. Mais tu sais, genre, par rapport à la carrière du gars, tu sais, Anomaly, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine renommée.
En tout cas, un succès d'estime, c'est certain. Après, le succès commercial, je sais pas encore.
Il y a des morceaux qui ont quand même explosé. Hein. Donc lui, c'est très intéressant à suivre, c'est de la production. Là, pour le coup, on n'est plus dans le hip-hop, on est plus dans quelque chose d'un peu plus fusion, un peu plus large. Jazz, un peu hip-hop aussi, mais jazz, électro, machin. C'est vraiment, vraiment très, très chaud. Voilà, ouais. Kenny Beats, Anomaly, c'est très, très intéressant à suivre. Quickly, des fois, qui stream.
Ah, j'aime beaucoup aussi, Quickly. Okay. Je savais pas qu'il streamait. Ok, cool.
Ouais, mais
il stream. Rarement, mais...
C'est rare. En fait, c'est intéressant à suivre quand tu veux choper des petits tips sur Ableton.
Ben, c'est ça, quoi.
Parce que c'est un vrai bedroom producer, tu vois. Contrairement à Anomaly ou Kenny Beats. Quickly, c'est vraiment le bedroom producer, tu sais, qui va faire des trucs. C'est pas forcément des... qu'on appelle ça... C'est la manière dont il fait les choses, c'est pas scolaire du tout, mais c'est très intéressant à suivre parce que tu le vois tweaker des machins, tourner des boutons sur son Ableton, et puis il arrive à créer des sons marrants, des grooves complètement tarés à la quickly, quoi. Et donc c'est intéressant à suivre. Par contre, ouais, il est pas très bavard. Hein. Il ouvre son Ableton, il fait du son, il fume des joints et voilà, quoi.
Ok, je checkerai. J'adore ce que ça zique, donc cool.
Oh, t'as de bon goût, toi.
Let's go.
Ah, ça.
MV, t'en avais d'autres là, ce, de côté.
Ouais, non, mais il y a du grand public et du moins grand. On parlait de, en fait, il y a beaucoup de musiciens et musiciennes très cool qui gravitent justement autour de la sphère un petit peu glamour, Andrew Wang et compagnie. Moi, j'aime beaucoup, c'est très mainstream aussi, mais Rachel Kay Collier. Vous avez sûrement vu des vidéos d'elle, c'est une galloise qui est super good vibes, qui présente trop bien et tout. Et qui a vraiment un setup de live. Donc, elle est sur Ableton avec des milliards de push, de machines à potard pour moduler sa voix, balancer des machines de loop, etc. Plus elle joue très très bien du clavier et d'autres choses. Et donc elle fait pas mal de performances qu'elle poste directement sur YouTube, qui sont très stylées, quoi.
Oui.
Assez accessible. Qu'elle décrypte après en général pour expliquer son process, comment, quelles boucles sont enregistrées, qu'est-ce qu'elle balance sur chacune de ces milliards de machines autour d'elle. Et aussi de temps en temps, elle fait des vidéos du style, enfin du classique, mais du style quel plugin en vogue quand elle veut poser de la voix spéciale. Enfin voilà, des séries de 5-6 10 plugins par thème, que ce soit voix, gratos, delay, etc. Donc des trucs que je suis amené à voir de temps en temps. Et sinon, enfin il y en a des milliards, mais sinon, toute petite chaîne qui est vraiment cool. Donc là, évidemment, on parle un petit peu encore musique de jeux vidéo principalement, mais pas que. Mm-hmm. C'est DK's Music Box qui a très peu d'abonnés, 4000 abonnés, des vidéos qui sont encore un peu intimistes, alors qu'il y a une prod de dingue avec une esthétique un peu synthwave, mais c'est un Zikos qui reprend plusieurs thèmes de jeux vidéo, enfin à chaque fois un thème, mais vraiment en gros il enregistre tout en fait en live. Il a plein de claviers, des synthés analogues old school, des milliards de trucs, il a une grosse caisse, plein de petits instruments de percu, grade, basse et compagnie, et des fois il branche ses claviers si besoin à des consoles, etc. Et il a une belle photo, une belle lumière et tout, c'est vraiment une production incroyable pour un mec qui fait des vidéos à 2000 vues à peine. Et il y a des trucs de fou, hein, des reprises d'Hotline Miami qui sont sublimes, du Hades, du Celeste, du Street Fighter, du Super Metroid, du Zelda, du Stranger Things, tout ce que vous voulez. Il va un petit peu dans pas mal de jeux connus ou de niche ou indé, mais c'est vraiment au-delà du fait que c'est de la musique de jeux vidéo, c'est vraiment juste de la très très bonne musique et très très bien filmée. C'est vraiment très cool.
C'est en parlant de musique un peu comme ça, filmée live, etc. Les grands classiques, évidemment, Tiny Desk, j'imagine que vous avez déjà regardé du Tiny Desk. Qui est voilà, pareil dans
NPR.
NPR. Et alors justement, donc à la base c'est une radio américaine mais qui fait aussi de la vidéo. Si vous êtes un peu amateur de musique, il y a probable chance que vous soyez tombé sur un live Tiny Desk. Mais aussi on devrait plus souvent parler de KEXP aussi, qui est une autre radio,
oui, bien sûr.
Et qui fait aussi des lives absolument incroyables. Et surtout, ce que j'aime avec ces deux radios, mais encore plus avec KEXP que NPR, c'est qu'il y a vraiment cette idée de trouver des artistes qui ont pas encore complètement pété, mais qui quand même commencent à devenir très gros, à avoir une proposition artistique super intéressante. Et en tant que Français, on les connaît pas encore forcément. Et donc, c'est pas non plus le mec vraiment qui sort de sa chambre qui vont être dégotés, mais par contre vraiment cet entre-deux de découvrir quelques groupes comme ça qui commencent déjà à avoir de la bouteille mais qui ont encore pas explosé. Moi en tout cas j'ai découvert comme ça des groupes un peu, tu vois, indé, etc. Super cool. Donc j'invite tout le monde à regarder les lives de KEXP, KEXP.
Ces gens de KEXP sont très cool et c'est marrant aussi parce qu'ils vont aussi chercher pas mal, ouais, justement, ils ramènent pas mal aussi de Rosta, que ce soit chez eux, mais aussi justement à l'international, vu que les Américains sont très, en général, très américano-centrés.
Absolument.
Mais ils font l'effort. Enfin, on a vu à l'époque des Stromae, des Yale et compagnie débarquer là-bas. Donc, c'est rigolo. Ils vont chercher aussi en Europe divers artistes. Mais à chaque fois, ouais, c'est assez bienveillant. C'est entrecoupé de petites interviews, ambiance très chill. Ouais, c'est vrai que c'est très très cool, les lives de KEXP.
Et alors, est-ce que vous, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas du contenu vraiment de performance live comme ça en français et avec aussi bien foutu.
J'y ai pensé à un moment. Hein. J'ai pensé à trouver un sponsor à un moment FR aussi, mais on doit avoir, ouais.
C'est pas le même type d'artiste, mais le Move fait ce genre de choses. Il a fait les grands concerts de rappeurs, mais avec un grand orchestre philharmonique derrière qui accompagne les rappeurs. Comment ils appellent ? Le Hip Hop Orchestra, je crois, ils appellent ça.
Ah oui, c'est vrai.
De l'événementiel, enfin de.
En fait,
de
c'est ça, même. Parce que t'as Arte Concert aussi. Il y a effectivement de beaux concerts filmés en France, souvent avec la télévision, ou là en l'occurrence tu parlais avec Move, mais tu sais, vraiment d'une émission récurrente qui revient avec en plus un peu de l'interview et compagnie, et vraiment t'as un format Un taratata en bien. C'est ça.
Non, puis il y a les Grundor, comme on parlait, Chrono Music aussi, ça sort régulièrement.
Mais c'est pas la même ambition non plus.
C'est pas le format dont tu parles.
C'est pas le même format, pas la même ambition. Ouais.
Non, c'est hip-hop.
Ça
manie
de l'ambition, ça. Sinon, on en parle pas beaucoup, mais les éditeurs de plugins, ils se mettent depuis déjà un certain temps, mais à faire des vidéos qui sont très 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 cool. Les types de chez Spitfire Audio, ils font pas mal de tutos, ils ont fait un truc justement sur la musique de Queen's Gambit. T'as le éditeur qui est venu. Oui. Quoi, j'aime bien Queen's Gambit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec Queen's Gambit?
On a compris.
Spectrasonic, ceci.
Spectrasonic, c'est terrible. Hein.
Ouais, voilà.
Spectrasonic, ouais, il y a vraiment des claviéristes et des gens super chambés qui viennent un peu faire le showcase de leur clavier d'hiver aussi. Ouais. Très, très cool.
Florent, t'en as quelques-uns encore sous le coude?
Moi, dans un style complètement différent, le dernier truc qui m'est vraiment éclaté la tronche, c'est Bo Burnham. Je sais pas si vous connaissez Bo Burnham.
C'est le mec qui vient de sortir Inside, je sais plus quoi, sur Netflix, là, c'est ça?
Voilà, il vient de sortir son spécial sur Netflix. Mais en fait, de base, c'est un gars il a commencé très très jeune et c'est un gars qui possède des chansons rigolotes. Alors, c'est un américain, hein, il possède des chansons rigolotes de lui sur YouTube, quoi. Il a démarré comme ça. Puis après, je crois qu'il a rejoint la team College Humor, un petit peu tout ça. Ça a gonflé niveau moyen. Il a fait un one man show qui est sûrement un des meilleurs one man show qui est toujours en train de mélanger la musique et tout. Et il y a pas longtemps, il a sorti il y a quelques semaines là, un spécial sur Netflix. Mais c'est presque que musical parce que lui, son truc, c'est vraiment de composer des morceaux, quoi. Et le spécial, ouais, juste incroyable. Les morceaux sont incroyables, sont vraiment très drôles. Mais sont bien. Tu vois, c'est pas juste les paroles sont rigolotes et puis on fait une instru à la convite. Fait vraiment, il se casse le cul. Et il y a une personnalité de ouf, je trouve, qui ressort de ce truc-là. Et si vous l'avez pas vu, moi, je vous conseille vraiment ce spécial sur Netflix de Bo Burnham qui s'appelle Inside. Et parce que les morceaux tuent, c'est très drôle, c'est super inventif. Tu sais, c'est le genre de truc, quand tu finis de le regarder, ça te donne plein d'idées, quoi. Tu sens qu'artistiquement, tu t'en ressors grandi, quoi, ce truc-là. Parce qu'en gros, le principe, c'est lui tout seul pendant le confinement qui fait un spécial d'une heure pour Netflix, enfin d'une heure et demie, dans une seule pièce chez lui, tu vois. Et comment tu fais ça sans être chiant? Et il y arrive, enfin, c'est vraiment assez, assez top niveau inventivité, je trouve.
Ah bah c'est marrant parce que moi, je déconseille. Moi, j'ai pas du tout aimé.
Ah ouais, t'aimes pas du tout?
Ah ouais.
C'est un peu ampoulé, je trouve. C'est-à-dire que je trouve ça peut faire un petit peu le mec qui se prend pas au sérieux, mais qui se prend au sérieux, tu vois.
Ouais, de ouf. Comme ça. Moi, en fait, ouais, c'est ce truc-là qui m'insupporte, quoi. En fait, on me l'avait vraiment conseillé parce que j'ai vraiment saigné tout le stand-up, machin, et je galérais pour trouver des nouveaux trucs et tout. Et on m'avait conseillé Bo Burnham en mode vas-y, c'est super cool. Et en gros, c'était quand il a sorti Make Happy, c'était un peu la nouvelle vague des specials d'humour qui se permettent de pas être marrant au bout des deux tiers du spectacle. Ça arrête complètement d'être marrant et ça devient plus un genre de conférence TED, tu vois. Et genre, t'as ça avec Nanette, t'as ça avec la plupart des spectacles de Daniel Sloss aussi. Et par exemple, j'ai retrouvé ce qu'on m'avait promis que j'aurais avec Bo Burnham, plus chez Daniel Sloss. Mais moi, Bo Burnham, on ne l'avait pas vendu comme un chanteur et qui fait essentiellement de la musique et tout ça, tu vois. Mais moi, musicalement, je ne trouve pas ça super intéressant. Mais après,
t'as vu Make Happy ou Inside ou les deux?
En fait, les deux, je les ai lancés et je les ai coupés aux environs de 40 minutes, un truc comme ça.
Ah ouais, d'accord. Non, ouais. C'est juste que tu n'es pas sensible au truc du tout.
Ah ouais, non.
Est-ce que c'est pas simplement la hype qui t'a... Tu sais, quand on survend un truc, peut-être que finalement, c'est pas...
Il y a peut-être ce truc-là qui a joué aussi, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que... c'est pas musicalement, c'est pas ma vibe. Il y a des idées qui sont cool, je trouve, sur l'écriture. Et puis après, sur l'arrangement, il y a plein de passages où je trouve ça faible. Sa voix m'intéresse pas spécialement non plus. Et puis là, je dois dire que sur le dernier Inside, sur les textes, moi j'ai trouvé ça assez chiant.
Bon, en tout cas, c'est un truc qu'il a fait, mais à côté de ça, il fait plein de trucs, Bo Burnham. Et toi, Florent, tu dis qu'il y a vraiment des trucs intéressants à apprendre chez ce mec, quoi, à regarder.
Moi, je trouve ça super intéressant. Après, effectivement, j'aurais précisé, comme Chrono le dit, si t'accroches pas, tu le sens très vite si t'accroches pas, de toute manière. C'est pas la peine d'insister parce que c'est son style. Clairement, tu vas pas être surpris à 45 minutes. Genre, si les premières minutes t'ont pas plu, c'est comme ça. Mais moi, en fait, le truc, c'est que j'y suis allé en m'attendant Make Happy, donc son spectacle sur Netflix, en sachant pas du tout ce que c'était. En fait, je me faisais une session avec Dave Chappelle et tout. Je me faisais tous les one-man shows américains de Netflix, tu vois. Et et ensuite, ça m'a proposé Bob Burnham. Et j'avais entendu son nom, tu vois, mais je savais pas trop ce qu'il faisait, donc j'ai lancé. Et pour le coup, c'était tellement différent du reste et genre vraiment très, très bien foutu. En termes de, enfin, j'ai trouvé ça assez monstrueux et du coup là, je me suis intéressé au gars. Donc j'y partais déjà avec zéro attente.
Ouais. Ah ben te justifie pas, coup, hein, te justifie pas. Trop de musique, ça pisse froid, c'est tout.
Oui, voilà, je pisse très froid.
Il pisse très très. Il pisse. Ouais, même
mais,
je voilà.
Mais pour le coup, mes attentes avec Inside étaient très hautes et j'ai pas été déçu. Donc je pense que c'est juste une question. Si t'aimes pas le truc, tu vas vraiment pas accrocher, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, ouais, c'est t'aimes ou t'aimes pas du tout, quoi.
Il y a tout un pan de...
Tu viens de dire les vraies choses. Dems, t'aurais dû finir par Dems.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dems.
Il y a tout un pan de la production de contenu en anglais musical qui a pas trop d'équivalent en français. Et le problème, c'est que là, je suis incapable d'en citer et ça m'emmerde parce que c'est mon pote Étienne qui me file souvent ce genre de vidéo où en fait c'est des réflexions, c'est des mecs souvent face cam, tu vois, il y a pas de montage particulier, etc. Mais c'est des réflexions autour de la musique, de la théorie musicale, de est-ce que réellement pourquoi on dit que le mineur ça sonne triste et le majeur ça sonne happy, etc. Et tu vois plein de réflexions.
Ah, les trucs
en fait,
genre David Bennett ou Jacob Collier, des trucs de genre.
J'avais pas que Jacob Collier faisait aussi des trucs comme ça, un peu plus réflexion. Je vois ses perfs,
enfin,
etc.
C'est juste que Jacob Collier, outre ses perfs, il y a beaucoup de masterclass de lui qui sont postés. Il fait des petites choses de temps en temps. Ensuite, moi, je suis pas mal des gens comme David Bennett Piano et compagnie, parce que bon, ils sont un peu comme moi, fans de radio et des compagnies en plus. Mais du coup, oui, ça, c'est intéressant. Ils déconstruisent totalement des chansons, notamment des chansons avec des signatures un peu bizarres ou des changements extrêmement surprenants et un petit peu expliquer tout ça. Et même moi, qui comprends pas tout, je suis toujours fasciné de regarder ces choses-là.
Ouais, bah ouais, puis ça reste assez accessible. T'as 12 Tone aussi qui fait ça. Genre, lui, son format, c'est... Enfin, formellement... C'est genre de la voix off sur lui qui dessine sur du papier de partition comme ça, tu vois. Et c'est
j'ai vu.
Et c'est machin. Et il aborde de temps en temps, c'est la construction d'un morceau, comme peut le faire Rick Beato sur certains trucs, pourquoi ce morceau déchire et tout, tu vois. Et à d'autres moments, c'est plus genre, ouais, pourquoi 12 notes et pas 13, machin, etc. Tu vois, des trucs qui abordent
j'adore ce genre de délire.
De musicale.
Et ouais. On n'a pas ça en France, bah, en plus,
en fait,
ma connaissance.
On a un peu ça en France, ouais. En fait. On va encore m'accuser de faire de l'autopromo, tu vois, mais sur la chaîne Twitch Chrono et Pampan, on a tendance à aborder ce genre de sujet. Par exemple, la musique de gauche ou de droite, tu vois. Ouais. Je sais pas si beaucoup de gens ont déjà abordé ce sujet, tu vois. Ouais. Booba. 44 ans ou
plus.
Ou plus. Et effectivement, c'est un débat qui évolue en plus chaque année.
Donc, en plus, là, on va intégrer le débat à ASMR. Donc, on va prendre des sujets très clivants et on va débattre en ASMR. Donc, ça va encore...
Est-ce qu'on peut dire que vous avez élevé le game à un niveau, là, le game français, vraiment, c'est le niveau des Américains.
Je sais pas si tu vois Neil Armstrong, quand il est allé sur la Lune et qu'il a planté son petit drapeau. Voilà, nous, on fait pareil, mais avec Twitch, quoi.
Là, tu parlais d'Adam Neely aussi, c'est quelqu'un qui fait ça très bien.
Oui, bon, de ouf.
Parlons d'Adam Neely rapidement, justement, quand même. Qui kiffe et qui veut nous en parler rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement.
Juste le boss, hein. Juste le boss,
tout le monde kiffe, je pense.
Ouais, ça, en fait, à la base, c'est un bassiste. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du manque de bassistes dans ce game. Mais à la base, il faisait vraiment des vidéos où il parlait de basse, comment mieux gérer ton jeu à la basse et tout ça. Et puis, il a vraiment commencé à diguer la théorie musicale en balle et à poser des questions qui deviennent vraiment complètement méta à certains moments, quoi, tu vois. Alors, c'est au bout d'un moment, enfin, genre, tu te demandes comment sa vidéo va être plus intéressante la prochaine, quoi, tu vois. C'est parce que ça devient des trucs qui sont de plus en plus... Ça te fait te demander mais qu'est-ce que je peux considérer comme de la musique, tu vois, genre toute cette vidéo avec le tempo le plus lent, genre quel est le morceau le plus lent qu'on puisse écouter et considérer que c'est encore de la musique, quoi, tu vois. Et en plus, il a vraiment changé un truc incroyable. Enfin, à ma connaissance, c'est lui, tu vois. C'est ce truc du reverse clickbait qu'il a fait sur YouTube. C'est incroyable, tu vois. Pour moi, c'est lui qui a amené ce truc-là. C'est genre, tu poses une question un peu sexy en titre, tu donnes la réponse sur ta miniature et les gens cliquent, tu vois. Parce que la réponse paraît tellement simple et tu dis, bon, ok, c'est la réponse, mais pourquoi, tu vois. Et je trouve ça super malin. Et donc voilà, c'est un type qui a l'air très intelligent et très... il est très pédagogue.
Ouais, on le retrouve en featuring sur pas mal de vidéos, en plus même en tant que bassiste. Et il a un groupe que j'aime beaucoup en duo qu'on peut streamer un peu partout, c'est Sungazer. Et ouais. Ce groupe-là est vraiment cool. C'est vraiment des hybrides de plein de genres musicaux. C'est complètement barré. Il y a vraiment des très très bonnes pistes. Et ouais, Adam Neely, très bien, très bien.
Vraiment très riche, beaucoup de choses. 8-Bit Music Theory, je sais pas si toi tu connais.
Oui, j'adore 8-Bit Music Theory.
Ouais. C'est ça, c'est trop bien. C'est, lui, il analyse de la musique de jeux vidéo essentiellement. Et pareil, c'est assez technique, mais ça reste abordable si t'as pas eu de formation théorique classique.
C'est assez technique, c'est vrai, mais oui, ça se regarde.
Ouais, tu vois, ouais, c'est des concepts un peu poussés, mais si t'es musicien un peu amateur, etc., tu vois, genre, tu comprends très bien de quoi ça parle et c'est super intéressant parce que il prend des exemples qui sont légendaires, quoi.
Je me souviens j'avais vraiment été marqué par une vidéo sur justement toute la musique de Chrono Trigger, donc de Yasunori Mitsuda. Il explique vraiment tous les modes utilisés, pourquoi tous les changements sont intéressants et justement la récurrence de certains changements de progression, etc.
L'harmonie non fonctionnelle.
Oui,
c'était
aussi,
vraiment trop cool.
Vraiment, c'est poussé, mais c'est super sympa à voir. Et puis voilà, la prod est sympa. Il y a une ambiance, quoi.
Ouais, à fond.
T'en as d'autres, Florent, encore ?
Déjà, même en termes de guitare, il y a une grosse commu YouTube américaine, enfin anglophone en tout cas, guitaristique, tu vois. Même Rick Beato ou quoi, en fait, c'est des mecs qui jouent de la guitare, ils fracassent, tu vois. Même lui, il se définit pas comme un guitariste, mais c'est incroyable. On a Paul Davids, qui est aussi en anglophone, Paul Davids, qui est sûrement le plus gros YouTuber vraiment centré guitare, pour le coup. Samurai guitariste, tous ces mecs-là et tout, qui sont super intéressants et qui ont cette approche assez cool. Mais ouais, clairement, Rick Beato, en termes de savoir aussi, c'est des mecs comme Adam Neely, qui ont vraiment une connaissance très, très, très poussée de la théorie.
Ouais, voilà.
Mais qui sombrent jamais dans le chiant. Et juste, enfin, qui arrive toujours à t'accrocher, même si tu comprends pas forcément tout, quoi. Il y a toujours un truc avec ça qui est cool. Et voilà. Et Paul Davids aussi, si t'aimes la guitare, c'est bien tourné. Il explique bien, il joue bien. C'est assez cool, quoi.
Avec Beato, je suis beaucoup. Je sais qu'il a quelques critiques de temps en temps parce que il aime bien se plaindre.
Il a un côté boomer quand même.
Oui, et puis non, en fait, vu que il fait aussi, il réagit énormément et il a envie d'illustrer ses vidéos avec les véritables musiques, etc. Donc toutes ses vidéos, elles sont strike, elles tombent souvent, etc. Donc des fois, il dédie des vidéos entières à se plaindre, chier sur l'industrie des disques.
C'est un vrai youtubeur.
C'est ça, mais il y a vraiment des trucs. Très, très intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir son avis. En plus, il essaie en plus d'avoir du contenu sur les classiques et du contenu vraiment de théorie, etc. Rester aussi dans l'actu avec justement en analysant les tendances du moment et en réagissant un peu. Il y a un peu de tout, quoi.
Ouais, c'est ça. J'aime bien son angle et j'aime bien son approche et c'est cool d'avoir un mec avec ce genre de profil qui fait ce genre de contenu. Mais c'est vrai que c'est du contenu qui, moi, personnellement, va m'intéresser une fois sur cinq, quoi, tu vois. Genre, parce que je suis là pour le contenu un petit peu plus poussé et que ceux qui pensent du top 50, c'est très cool et tout, tu vois. Et puis, je pense que ça amène un truc qui est positif dans le paysage. Mais c'est pas ce genre de vidéo de lui que je vais regarder, quoi. Puis en plus, genre, souvent, je trouve, il fait, genre, tu vois, quand il analyse le top 50, souvent, il est là, il sort sa guitare et il dit, non, voilà, et tout, et tu vois, c'est super touchant, tu vois, il a ce truc où il se fait kiffer à refaire des trucs qu'il entend et tout. Mais il y a quelques vidéos où je trouve la plus-value est pas dingue. Mais par contre, les vidéos, c'est pas n'importe qui, quoi, tu vois, il fait vraiment de la théorie musicale assez poussée. D'ailleurs, je pense que quand il avait vraiment pété, je crois que c'était une vidéo avec son fils. Où il faisait du
parce
training.
Il a la pitch parfaite là. Ouais,
voilà, c'est ça.
L'oreille absolue.
Ouais, il joue des accords à 15 notes.
c'est ça, et le gamin il a 4 ans, il est en mode il fait sortir en une seconde.
Il a éduqué dès le berceau.
Mais le pire, c'est qu'il a une fille ou un deuxième fils, je sais plus. Et c'est pareil, il a éduqué pareil et c'est à l'oreille absolue aussi. Enfin, c'est genre incroyable quoi. Il a le truc.
Ouais.
Ces gosses, tu vois, c'est assez ouf.
J'avoue, quand j'avais eu ça, je m'étais dit oui, faudrait peut-être tenter dès maintenant parce que c'est à ces âges-là, mais ouais, pas la motive. Il faut avoir la méthode, je suppose.
Tant pis pour eux. Allez, vraiment. T'as déjà l'impression d'avoir raté un truc dans l'éducation de ton enfant.
c'est incroyable de voir, ouais, à quel point, si tu l'appliques bien, c'est ça fonctionne quasiment à tous les coups, tu vois, parce que vraiment les enfants, c'est la matrice tout le temps, tu vois, il y a tout qui rentre. Ils sont très très jeunes, c'est assez impressionnant.
Alors après, j'avais vu qu'il y avait une question de gène aussi pour l'oreille absolue, qu'apparemment il y avait un gène récurrent. Alors c'est peut-être n'importe quoi, j'en sais rien, tu vois. Mais que voilà, apparemment il y avait une histoire. On m'a déconnecté. Vous m'entendez toujours ou pas?
Ouais, oui, oui.
Ouais. Ok, bah écoute, je sais pas, c'est bon. C'est pas l'Apollo qui a lâché, donc c'est bon.
Très bien.
Mais voilà, toujours est-il qu'apparemment il y aurait une question de gène dans l'oreille absolue et que voilà, à entraînement égal, tout le monde n'aurait pas forcément les mêmes résultats au final, tu vois.
Ok, ok. Ouais. Et puis c'est quelque chose que tu perds au bout d'un certain âge, je crois aussi. Tu vois, ça commence à partir hein, au bout d'un moment.
Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est tard. Hein. Enfin, ouais, c'est quand tu commences à vraiment prendre de l'âge que apparemment tu perds, mais tu t'en fous. Enfin, c'est pas. De toute façon, c'est pas obligé. Enfin, l'oreille absolue. Oui, c'est rigolo pour faire des vidéos YouTube, mais dans l'absolu, c'est pas ça qui t'empêche d'être musicien.
Ouais, mais bien évidemment, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a des gens qu'on n'a pas cités qui mériteraient vraiment d'être
probablement.
Cités probablement. Ouais. Voilà. Qui vous viennent à l'esprit comme ça, des... Non, il y en a pas en plus comme ça. Tu disais Pendresse plein. Tu veux en citer encore quelques-uns quand même, vraiment qui font les trucs qui tuent.
Non, en fait, c'était juste histoire de dire quelque chose. Hein, je t'avoue.
Là, ouais. En performing pur, juste des vidéos que j'aime bien mettre en fond. J'aime bien Jepo, J3PO,
ouais,
qui est vraiment lui un, qui est vraiment un claviériste énervé. Mais c'est surtout du showcase de synthé, de clavier, de temps en temps quelques idées, mais surtout de la performance ou bien de juste montrer des presets de nouveaux synthés. Mais il a vraiment un gros niveau. Et sinon, il y a une chaîne qui cartonne un petit peu dans les chaînes un peu chill, etc. C'est IBI, où c'est vraiment juste des plans de haut avec une image assez désaturée. C'est un piano vraiment en bois clair où t'entends à fond les pédales et c'est un peu des musiques chill, un peu genre Minecraft piano, mais beaucoup de compositions à lui et c'est vraiment des morceaux posés de 8-9 minutes et ça fait un peu penser au truc de Olafur Arnalds et compagnie.
Ouais, exactement.
Musique un peu
que j'allais dire, c'est
très,
vraiment
très posé. Olafur Arnalds, incroyable.
C'est ça. Je mets 40 micros sur le piano et t'entends plus le bruit des doigts, des pédales, des trucs, mais du coup, c'est vrai que t'as des textures qui sont incroyables, quoi. C'est super cool. Mais ouais, effectivement, Ibi, je connaissais aussi, c'est vachement bien, ouais. C'est très très sympa.
Et tout à l'heure, Florent, il parlait des guitaristes. En fait, il y en a un, j'aimerais savoir si vous vous rappelez de ce gars-là. Mais ça, c'est un truc de vieux, donc ça tombe bien, on est tous vieux, là. C'est un gars qui s'appelait Mystery Guitar Man.
J'étais sûr que t'allais parler de lui.
Ah,
bien sûr,
vrai,
avec ses lunettes de soleil. Ouais. Bien sûr, bah c'était un des premiers gros youtubeurs, quoi.
Ouais, tout court. Et en fait, il faisait pas que de la guitare. Mais en fait, c'est genre, moi, je trouvais ça incroyable parce que pour l'époque, c'était relativement novateur. Tu sais, c'est genre, il prenait un élastique, par exemple. Maintenant, ça paraît con, hein. Mais il samplait la note que faisait l'élastique. Je pense qu'il l'autotunait, hein. Mais, et en fait, il crée un morceau avec ça, quoi. Et maintenant, ça paraît un peu, c'est overfait, tu vois. Mais pour l'époque, c'était, il faisait un morceau en autotunant un ballon qui se gonfle, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais.
Il faisait ça toutes les semaines.
Et à l'époque, t'avais Matrache aussi.
Et Matrache, bien sûr.
En français.
Matrache, attends, parce que Matrache,
il continue à être actif, hein.
Voilà,
il fait plein de reprises rap, en fait.
J'ai perdu le contact, enfin, le fil pendant plusieurs années. Et là, j'ai vu récemment qu'en fait, ouais, il fait de la cover constante de Peura, quoi. Et en mode, il fait un million de vues sur PNL et tout. J'ai halluciné. J'ai fait bon,
si je dis pas de conneries, il a même accompagné, je sais plus si c'était pas Damso.
C'est Damso, il était guitariste live.
En live,
ouais.
Pour une tournée, même, je crois. Quasiment pour une tournée, même, carrément. Enfin, c'est.
Et il sort des morceaux. Son dernier album, c'est un album de genre de trap, drill ou quoi. Mais en fait, il n'y a pas de rappeur, quoi. C'est la guitare, il fait
la guitare qui fait le lead.
Ouais, il reprend tout.
C'est assez intéressant.
Bah, c'est très cool, je trouve ça. Enfin, parce que souvent, c'est des top lines de trois notes, hein, tu vois. Et genre, réussir à rendre le truc intéressant sur des mélodies aussi simples. Je trouve que c'est vraiment
typiquement
fort.
Typiquement ODD,
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois.
En faire quelque chose, du refrain.
Mais il joue avec, l'ensemble du registre, tu vois, genre les petites techniques sur son truc et tout. Moi, je trouve, franchement, pour des mélodies, des fois, c'est des one-note mélodies et tu restes là pendant 2 minutes et tu kiffes, tu vois.
C'est malin.
Le seul truc, c'est la formule, à mon sens, elle peut vite s'essouffler. C'est-à-dire que ça repose quand même avant tout sur le postulat de « Ah, on a un truc rap et on le refait à la guitare.
Ouais. »
Et une fois que tu vois qu'il aura fait beaucoup de morceaux, on se dit « Ah, bon, ok. » Et qu'est-ce que tu peux proposer d'autre, quoi? Mais vu qu'il fait des choses en parallèle, il avait accompagné Damso, etc. J'espère qu'il compose aussi peut-être d'autres trucs. Enfin, ce serait cool d'avoir effectivement aussi un peu de variété, en fait, dans ce qu'il propose.
Oui, de, bon, de base, il faisait pas ça.
Ouais, ouais. Des choses
c'est
très
ça, il faisait pas ça du tout. Ouais. Ouais. Donc, c'est je pense qu'il évolue en faisant ce qu'il a envie faire. Après, ce qui est cool, c'est que vraiment, pour le coup, c'est un des rares gars en mode guitariste, YouTube, Instagram et tout, où il joue deux notes, tu sais tout de suite que c'est lui, quoi.
Ouais, il a un toucher qui est extrêmement reconnaissable.
Alors effectivement, le mauvais penchant de ça, c'est comme tu dis, c'est que peut-être tu peux vite tourner en rond quand tu fais ça, mais par contre, effectivement, ça lui donne une personnalité où genre il joue, t'es en mode, c'est matrage direct, tu vois. Ouais. Et je trouve ça assez cool parce que c'est pas si facile à faire que ça. Aujourd'hui, surtout, on a tendance à s'éparpiller un peu, à faire plein de styles différents et tout. Je trouve ça pas mal, au final, qu'un gars arrive à se cadrer et à se dire, bah écoute, je développe mon jeu dans cette direction-là. Et quand je fais une note, on sait que c'est moi, quoi.
Ouais, complètement, c'est vrai.
Sinon, ouais, un dernier nom peut-être. Ça, c'est quelqu'un, encore une fois, un petit peu dans le spectre musique de jeux vidéo et compagnie, mais c'est quelqu'un qui est en train de la démocratiser à mort, et c'est assez rare de voir quelqu'un qui fait énormément de vues dans ce milieu-là. C'est Alex Mukala. Alex Mukala, on le voit pas mal sur Twitter, YouTube, ouais. Créateur afro-américain qui est à fond Final Fantasy, etc., etc., qui est maintenant même à un tel statut, entre guillemets, vu qu'il est hyper productif, que même il fait des interviews avec Uematsu et des légendes qui écoutent ses covers et compagnie. Et en général, que ce soit musique de jeux vidéo, de films, etc., en général, il va un peu breakdown, voilà, déconstruire un petit peu, puis ensuite, il va dire, il a des challenges à la con en mode, mais qu'est-ce qui se passerait si ce thème serait en mode un petit peu Zimmerish, Hans Zimmer, machin, etc., rendre un peu plus filmique ou changer totalement le mood de morceau. Donc il bosse avec des doses divers, il est excellent bassiste et ouais, il est très énergique et tout. Ses vidéos sont plutôt cool et c'est un petit peu, ouais, la nouvelle icône un petit peu de la démocratisation de la musique de jeux vidéo, entre autres, en ce moment. Donc très actif sur YouTube et sur Twitter également. Très très bien.
C'était quoi, Florent, cette chaîne? C'était autour de la guitare. Alors, il me semble que c'était parmi les premiers à faire ça, puis après, ça a été repompé, ces statistiques absolument partout. Tu sais, c'était ces mecs, en fait, qui faisaient, ils prenaient de la pédale boutique, du Chase Bliss, des trucs comme ça, pour faire plein de sons très, très vaporeux, oui. Et illustrer ça de manière un peu, tu sais, juste un peu d'animation, du stop motion, des trucs comme ça. Et ça a été pompé par tout le monde derrière.
Bah, alors, moi, je connais Nobs, qui fait ça.
Oui, et absolument, il y a Nobs. Je pense que c'était eux auxquels je pense. Qui étaient parmi les premiers à faire ça, en tout cas.
Ouais, qui est assez cool. Et on retrouve le côté... en fait, c'est comme le côté piano très texturé qu'on avait tout à l'heure et tout, mais avec surtout... c'est des démos de matos, quoi. Mais à chaque fois, ils bossent beaucoup avec Chase Bliss, la marque de pédales et tout. Mmh. Et c'est des trucs, voilà, c'est des pédales qui te font des sons de l'espace et tout. Et c'est vrai que c'est très, très sympa visuellement.
C'est bien.
C'est toujours des textures de fou. Et à chaque fois que tu regardes une démo, t'es en mode, bon, tu vas sur Reverb et tu regardes combien elle coûte et si tu peux te l'acheter ou pas. À chaque fois.
Et puis en général, quand tu la reçois à la maison, t'appuies sur un bouton, ça fait pas pareil.
Ouais, c'est clair. J'ai la Moods, moi, elle sonne pas pareil quand je l'utilise.
Ah, c'est terrible. Ouais, Nobs, vraiment à conseiller, effectivement, pour les guitaristes, c'est cool.
Et ouais, c'est très bien.
Vous avez dans le même délire d'autres trucs où tu as des approches d'instruments ou même des démos matos mais un peu différentes, tu vois, ou parce que c'est un milieu tellement cadré, en fait, la démo matos. On a tellement marre de voir, enfin moi en tout cas, de voir des démos classiques, que dès que t'as un mec, tu vois, qui a un petit concept qui soit visuel, sonore et tout différent, ça fait plaise. Et je sais pas si vous avez des exemples en tête.
Moi, il y avait un gars que je suivais, mais c'était sur Insta, lui. Je sais pas s'il poste beaucoup encore. Je crois que son compte, c'était Look Mom No Drums.
Ouais, ah. C'est ça. Ah, parce que je connais Look Mom No Computer.
Look Mom No Computer, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Bah, ce mec, alors je sais pas s'il a repris le concept ou quoi. En fait, il fait que des trucs à l'OP1.
Ah, comme un peu comme Red Is Recording.
Ouais, et en fait, ouais, c'est cool, et
rajoute des animations par-dessus et tout. Et c'est toujours pareil, très texturé et tout. Et les animations sont folles et tout. Et c'est vraiment très, très cool. C'est toujours en lien avec ce qu'il joue, forcément, et tout.
Ah,
c'est vraiment, enfin, je suivais ce gars-là. Je trouve ça trop, trop cool ce qu'il fait.
Ah, okay. Bah, il a dû reprendre le concept, quoi, enfin le naming, parce que Look Mom No Computer, un grand malade aussi, des vidéos incroyables au fil des années. Ce mec qui refuse de faire de la MAO et qui du coup a des armoires de machines où il fait n'importe quoi avec, c'est incroyable.
Si vous connaissez pas, checker aussi Look Mom No Computer.
Ah, il est complètement fou, hein, c'est vraiment, et puis c'est super marrant, drôle à voir, même quand on n'a pas d'expérience, parce que tu vois cette espèce de savant fou en blues avec des armoires de synthé à brancher 12 000 câbles et faire n'importe quoi. C'est un gros délire.
dans le style défi qu'on n'a pas parlé, mais c'est un historique dont on n'a pas parlé, pardon, mais qui est un historique Davy 504. Bah, base, quand même.
De toute façon, il y en a plein qu'on n'a pas cité et tu vas te faire dégommer dans les commentaires.
Davy qui est super skillé, mais c'est presque c'est devenu un mimeurs, quoi. Ça
oui, moi, j'en peux un peu plus. Ouais, voilà, c'est en fait, tu regardes trois vidéos et c'est bon, t'as compris, quoi. Il y a trois blagues qui tournent en boucle. Enfin, moi, je suis un peu méchant avec Davy, mais parce que j'ai vraiment du mal avec son truc.
Non, mais parce que ça fait trop longtemps qu'il est là et qu'il aurait dû faire autre chose.
Voilà, il arrive aux 10 millions d'abonnés.
Au début, c'était très cool. C'était très, très cool.
Ah oui, bien sûr, c'était du contenu sérieux, relativement sérieux au début.
Il fait du contenu souvent, enfin, il a fait avec un autre gars. Là, comment il s'appelle, celui qui est chauve, là?
Ah oui, oui,
c'est ça. C'est ça,
ouais. The Bold Guy, tout simplement.
Ah, c'est Everman. Non, ça,
ah, c'est Everman, oui.
Ouais. Ouais.
Ah, très rigolo, c'est Everman aussi.
C'est ouf. Il y a plein, il y en a plein, en fait. Hein. On ne peut pas citer tout le monde. Même en France, on n'a même pas cité Felkin, on est des enfoirés, tu vois.
Ah bah oui.
Ouais. Ah oui, bah oui.
Non, mais pareil, c'est les Français, effectivement, on aurait pu en citer d'autres. Mais ce que je vois quand même, c'est que là, tous, vous êtes beaucoup plus volubiles quand il s'agit de parler de contenu en anglais. Hein, que ça fuse, là, beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un gap si important?
Bah ouais, je sais pas. En plus, moi, j'ai l'impression que c'est, au bout d'un moment, c'est devenu un peu des copains et genre, on regarde pas forcément tout ce qu'ils font tout le temps, tu vois. C'est genre, ah oui, quand on voit qu'il a sorti un banger, on va voir.
Mais sinon, oui, mais si c'était si intéressant, enfin, quand tu regardes celui en anglais, c'est pas parce que c'est en anglais, c'est parce que c'est intéressant. Si ton copain est sorti un truc tout de suite intéressant, t'as envie de le regarder, quand
ça,
même.
Mais c'est aussi surtout qu'en fait, il y a juste en quantité, en volume, il y en a beaucoup plus, en fait, en anglophone. Ou en tout cas, avec un certain volume d'auditeurs qui fait qu'on peut, on peut y avoir accès, facilement sans connaître, tu vois. En France, il va y en avoir plein, mais tu sais, en fait, c'est tout petit, donc c'est difficile de les connaître, de tomber dessus. Parce que je pense qu'il y en a plein aussi en France, hein, mais.
Non, clairement. Mais moi, c'est un réflexe, hein. Moi, bah, on en avait déjà parlé quand on avait fait l'émission ensemble, mais moi, j'ai évolué avec que des internationaux anglophones sur Internet et dans le milieu de la musique de 98 à 2011 exclusivement avant de passer à du contenu français. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à l'activité de streaming à percer et compagnie, j'ai eu une fatigue des réseaux sociaux français assez vite. Donc c'est que moi, mon YouTube, il est en US. Il y a des créateurs que je suis depuis 20 ans et enfin pas depuis le début de YouTube plutôt, etc. Et c'est vrai que quand tu cherches une ressource particulière par rapport à un matos, par rapport à un sujet, tu vas en général avoir une récurrence mieux et un meilleur référencement et des plus de vidéos qui traitent de ce sujet-là en anglais vu que c'est la ressource internationale, quoi. Donc c'est vrai que par défaut, je suis très mauvais en découvrabilité française parce que je consomme beaucoup, beaucoup d'anglais. Mais à aucun doute, il y a des gens qui se déchirent derrière. Ensuite, l'anglophone, les Américains ont la formule, ont la prod, ont les codes et puis il y a plus de contenu. C'est juste ça, hein.
Et même en termes de moyens aussi, c'est plus simple. Vu qu'il touche plus de personnes, tu vois, même si c'est en fait une petite chaîne anglophone, ça va être une grosse chaîne francophone en termes de taille. Du coup, en fait, les mecs peuvent plus facilement... Enfin, tu laisses plus facilement tomber quand t'es en France et que t'atteins 30 000 abonnés, alors que proportionnellement sur la population que tu peux toucher, tu vois, c'est peut-être la même chose qu'un mec qui a 300 000 anglophones. Et du coup, bah, tu vas pas t'investir à fond dans ta chaîne forcément parce que t'as pas les moyens de le faire ou quoi, alors que je pense que les chaînes anglophones peuvent plus facilement s'autofinancer et du coup laisser plus de liberté à leurs créateurs qui ont pas à se prendre la tête à se dire est-ce que je vais bouffer à la fin du mois.
Florent, à chaque fois, tout est une question d'argent avec toi.
Moi, c'est la thune avant tout. Hein.
Alors que Pandres, c'est l'inverse. Lui, c'est tout pour le partage,
uniquement le plaisir. Moi, tu sais, si l'argent n'existait pas, je me porterais bien mieux.
Avant qu'on se quitte quand même, les gars, petit tour de table. J'aimerais bien parce que on a cité plein de trucs que vous trouvez incroyables, notamment en anglais. Et vous, avec votre contenu, votre place dans tout ça, est-ce que c'est un objectif à atteindre pour vous, ce que font ces mecs, par exemple, que vous admirez? Est-ce que c'est pas le même objectif? En plus, chacun, vous avez quand même une carrière différente et pas les mêmes objectifs, pas les mêmes publics et tout, tu vois. Mais comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Est-ce que parfois vous dites, putain, j'ai honte limite de ce que je fais par rapport à eux? Est-ce que c'est quoi le rapport à tout ça, tu vois? Vous, votre propre production, la qualité et tout?
Bah, moi, je pense qu'on les baise, hein. En tout cas avec Chronomusic, c'est sûr.
Fort. Nick Adam Nelly tous les jours.
Ah, on les baise.
Easy.
En vrai, non, en fait. Si je parle pour moi, je me considère même pas comme un créateur de contenu. Je crée des contenus, mais je me considère même pas vrai, même en faisant du stream, même en fait, je fais tellement ça en dilettante que que je peux pas dire que je suis un créateur de contenu, machin, où je fais de la musique. Et puis...
Ouais, mais quand tu t'avais ta chaîne YouTube, par exemple, t'étais investi.
Même là, enfin, je crée du contenu. Mais même là, en fait, ce que je faisais quand même ça, j'étais pas isos, tu vois. Genre, je me disais pas, oh, je me lève, il faut que je fasse ça, et puis là, machin. Je faisais vraiment ça très en dilettante. Donc, j'ai aucune ambition de ce côté-là, personnellement.
Bah, au début, j'en avais, puis après, je me suis pendrésifié.
Voilà!
Donc ouais, non, c'est pareil, tu vois, au début, genre je me disais, ouais, non, faut que ce soit chaud, machin et tout, je mettais encore un peu d'ego là-dedans, et puis là, maintenant, bah, j'en ai plus rien à foutre, je fais ce que je fais, je reçois une guitare, je fais une vidéo, je joue de la guitare, et si j'ai envie de faire un truc, je fais un truc, et si j'ai pas envie, je fais rien, tu vois. Genre, enfin, je compte pas sur YouTube pour manger.
Je comprends, mais c'est pas qu'une question d'ego, par contre, l'idée d'essayer, tu vois, de se pousser à faire du contenu le mieux possible, etc.
Ah si, Sandman, si.
Non.
Je peux pas te laisser dire ça.
Tu penses que c'est que l'ego qui te mène à essayer de faire du travail de qualité?
Il l'a dit.
Mais oui, après, je sais pas, tu vois, pour moi, il y a... Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça que je l'abordais, tu vois, c'était genre, il faut que ce que je fasse, c'est stylé, tu vois. Genre, ça peut pas être moyen. C'est je dois ronger les gens.
Non, il peut y avoir ce côté-là, ça, je suis d'accord, quand tu crées du contenu. Mais en parallèle, l'idée aussi, c'est de dire, j'ai juste envie, en fait, que ce soit... Enfin, en fait, là, je vais parler de moi, j'avoue. Je sais pas, après, chacun certainement a des...
Ça va se branler un petit peu ?
Non, pas se branler, mais me dire, moi, je veux qu'à chaque fois qu'une de mes vidéos se termine, je veux que les gens, ils aient appris des trucs. Et si j'ai appris des trucs aux gens, j'ai réussi mon truc. Voilà. Et ça, tu vois, cette ambition, c'est pas de l'ego, franchement. Et j'ai d'autres parts, évidemment, d'ego dans ce que je fais. Sinon, tu te mets pas à faire des vidéos sur Internet.
Tu produis, forcément pas d'ego.
Évidemment. Mais vraiment, mon ambition première, c'est de me dire, lorsqu'ils ont terminé, ils ont dit, ah, ça me pose une question, ou tel truc, je vais le retenir. Et là voilà, c'est mon but.
C'est ton but.
Mais c'est un beau but.
Que les gens se disent, j'ai appris.
Mais grâce à Salman.
Grâce à Salman.
Si au passage, ils disent grâce à Salman, cet incroyable pédagogue et orateur, oui, là, effectivement,
j'ai appris des choses.
Là, je suis refait. Mais
voilà. Ah, mais en fait, il y a toujours, tu sais, quand je disais, il n'y a pas d'ambition, il y a toujours une ambition et une ambition sous-jacente dans le truc. Tu vois, genre, par exemple, faire un maximum d'argent ou.
ou quoi d'autre,
par exemple, comme ça, au hasard. Quel autre? Non, il n'y en a pas. Non.
Avoir la certif Insta, tu vois, tu sais, c'est des choses simples, quoi.
Le swipe up.
Mais par contre, aussi, s'il y a une morale dans le truc, c'est que je pense que n'ayez aucune ambition, quoi. Si vous débutez quelque part, n'ayez pas d'ambition. Comme ça, vous risquerez pas de tomber plus bas que vous l'êtes déjà, quoi.
Oh, c'est joliment dit, Pampon.
Qui est beau dire.
Voilà.
Motivation.
MV, est-ce que tu veux enchaîner sur ces incroyables paroles?
Ouais. Bon, ensuite, ça sera très intéressant d'avoir le point de vue de Flan, qui lui, pour le coup, est vraiment dans la création de contenu et qui se produit là-dessus, quoi. Donc, moi, c'est très différent. On avait parlé. Moi, j'ai un but ultime, quand même, c'est vraiment de me remettre à fond sur la musique. Là, je vais peut-être pouvoir enfin, à la fin de l'été, à déménager dans un endroit qui me permettra de le faire avec un sous-sol dédié, etc., insonorisé. Mais moi, mon actu et ma rentrée d'argent, évidente, c'est le stream pour l'instant. Donc là, c'est vrai que tout ça est en attente. Et aussi, moi j'ai plein. Le problème, c'est que moi, pour avoir des ambitions vraiment musicales, il faudrait que j'arrive à me discipliner et m'autodiscipliner. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire depuis 40 ans. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, enfin, je fais de la musique depuis très longtemps. J'ai fait des milliers de morceaux, mais je suis incapable de jouer quoi que ce soit en live, à part jouer à trois accords de grade que j'ai pas touché depuis 10 ans. Le clavier, pareil, j'ai jamais réussi à m'autodiscipliner pour en faire quelque chose. Jamais de live set. Donc, il y a tout un arc que j'ai envie de faire parce que même si j'arrive à je peux faire des prods à 60 pistes et tout, faire de la bande son de films, de jeux, etc. J'ai des opportunités qui se réouvrent, qu'il y a d'autres qui se referment, etc. en ce moment. Mais ça restera quand même. J'aurai toujours le sentiment d'être un imposteur du fait de faire de la musique sans pouvoir faire quoi que ce soit de mes mains, tu vois. Moi, je suis là à tryhard avec un tracker ou bien devant un dos avec clavier souris. Et je trouve que quand même, au bout d'un moment, autant je pense que aussi le solfège ça serait génial à avoir, même si maintenant j'ai plein de concepts inconsciemment et j'arrive à faire des choses compliquées sans ces concepts là, mais vraiment l'aspect tactile que je n'ai pas m'empêche, je pense, de passer à un niveau et de me produire surtout, tu vois. Typiquement, c'est si j'ai envie de faire que ma chaîne musicale soit quelque chose peut-être un jour, tu vois, quand j'aurai envie de vraiment prendre l'axe musical à fond, mais je trouve que ça n'aura aucun intérêt tant que ça sera juste moi qui est en mode foutez-moi la paix avec le gaming et je tryhard sur un dos à cliquer pour que la modulation de les gâteaux de violon soit réaliste, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça. Donc pour des ambitions à très très long terme, quand je serai très vieux peut-être. Mais la musique, oui, bien évidemment, ça reste une énorme passion, quoi.
Quand tu lances un stream musique, comme ça t'arrive quand même régulièrement, l'idée c'est quoi? C'est juste, il n'y a pas plus d'ambition de ça en termes de contenu vraiment que tu vas proposer aux gens?
Je suis vraiment pas en mode proposition de contenu. En gros, moi je suis tellement habitué à streamer tout ce que je fais, je joue quasiment pas aux jeux, ou je fais pas de conf call, etc. quasiment en dehors du stream, que pour moi c'est naturel, c'est une source de motivation de me dire que je stream. Streamer la musique m'oblige entre guillemets à être productif sur ce que je vais faire et à pas rester sur des balbutiements de je joue avec des samples pendant 2 heures, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve que l'opinion et l'apport du chat sur de la création musicale pure, il est insupportable. Beaucoup plus insupportable que sur un jeu vidéo, tu vois.
C'est le pire backseat au monde, ça rend fou.
Quand t'as un début de writer's block au début et que ça fait 10 minutes que tu galères et que ça part pas, tout de suite ça va commencer à un peu mal parler sur ton dos. Ensuite tu vas avoir vraiment les esthètes et ceux vraiment qui maîtrisent justement la théorie à fond, qui vont commencer à te balancer du backseat en mode théorique. Non mais là, pas termine sur cette note, repars sur cette progression, fais ça. Ah, la basse, il manque de ci, de ça.
Ouais, la snare est trop forte ou quoi?
Alors moi vraiment c'est juste, je balance le stream parce que je me dis c'est cool, voilà, ce stream existe quelque part, mais je communique quasiment pas avec le chat. C'est un truc tunnel vision que les gens peuvent mettre en fond, il y a vraiment aucune valeur ajoutée, donc pour moi c'est pas du vrai contenu, tu vois. Et du vrai contenu, s'il y en aura, ça sera à terme, et sinon le contenu c'est juste les prods finis, les IP, les albums, les remixes, les trucs comme ça, quoi.
Mais il y a un truc que je trouve passionnant dans ce que tu fais là, tu sais, quand t'étais venu là, t'avais montré un peu à Chrono comment fonctionnaient les trackers, etc. là. Et moi ça, je trouve ça passionnant, et je crois pas qu'il y ait de grosses chaînes francophones qui parlent de ça, tu sais, un peu, qui rentrent un peu dans le truc.
En fait, ouais, je suis pas hyper compétent, mais c'est vrai que bon, ça serait vraiment très de niche, mais toute la technologie, toute la technologie de l'époque 80, 90, même début 2000, tout ce qui était fait en termes de comment faire de la pseudo MAO, mais avec les trackers et en utilisant des samples qu'on bouclait et l'optimisation de taille des fichiers, parce qu'à l'époque, dans les années 90, t'avais que le MIDI, même pas général, enfin t'as eu le général MIDI par la suite avec les Sound Blaster AW3264, etc. Mais t'avais vraiment le son MIDI dégueulasse, entre guillemets, hein, qui je trouve qui a un certain charme de l'époque. Et du coup, c'était la révolution d'avoir des vrais sons, des vrais samples. Et donc, ça passait par les trackers. Donc ça, il y aurait peut-être un travail historique ou des trucs cool à faire, montrer des choses folles. Mais YouTuber, c'est un vrai travail qui moi, m'effraie. Enfin, moi, vraiment, vu que justement, j'ai ce problème d'autodiscipline, passer des heures et des heures à écrire, monter, illustrer, animer, je trouve ça extrêmement
dur. Justement, Xavier, le meilleur d'entre nous, le youtubeur.
Ah, voilà.
Et en plus, parle-nous aussi un petit peu de tes ambitions sur Twitch, mais pour rappel, voilà, un peu ton rapport, toi. Il y a plein d'autres mecs qui font des trucs absolument incroyables. Pourquoi toi tu fais ce que tu fais? Comment tu le places par rapport à tout ça? Comment tu le vis?
Moi, je pense que mon moteur, c'est mon complexe d'infériorité. C'est justement, tu vois, que souvent quand on me demande, tu sais, il y a des gens qui connaissent pas la chaîne ou quoi, qui me demandent ce que je fais, je dis, si tu connais Adam Neely, je suis la version cheap, la version wish de Adam Neely. Mais je pense que justement, ce truc-là d'avoir la sensation de t'améliorer et tout est assez kiffant quand t'as ce truc. Et c'est pour ça que je veux pas forcément m'en débarrasser, parce que je sais que c'est ce qui me pousse, je pense, à faire mieux. Tu vois, si je regarde mon évolution, je suis assez content comparé à mon point de départ, je suis assez content de ce que je fais maintenant. Tu vois, je me dis, si je continue dans cette lignée-là, c'est cool, ça va être gros. Donc, ouais, j'essaie d'éviter de trop me comparer aux mecs que j'admire, parce que je sais que, déjà, je suis pas objectif parce que je suis moi. Et encore une fois, je pense pas qu'on soit les mieux placés pour s'auto-juger. Et de toute manière, je sais que je vais trouver ce que je fais à chier comparé à ce qu'ils font. Donc autant je m'en inspire avec grand plaisir et tout, mais j'essaie de pas trop comparer. Après, pour rebondir sur ce que disait MV tout à l'heure, je pense qu'on est tous aussi sensibles à ce que disent les gens à différentes échelles. Tu vois, moi je pense pareil, que je suis assez sensible, et pareil, effectivement, les critiques en musique et tout, c'est assez relou là-dessus. Donc ça fait plaisir aussi quand t'as des bonnes. Tu vois,
Sur la musique que tu fais ou sur les commentaires sur les vidéos que tu fais, parce que c'est pas la même chose, en plus, j'imagine.
Les deux, en fait, les deux.
Ouais.
Effectivement, mais c'est, ouais, c'est sur des aspects différents. Quand on vient me faire chier pour l'étalonnage de ma vidéo, quoi, ça me gagne.
Parce que
on s'en fout, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais voilà. Mais après, voilà, comme disait MV, c'est vrai que quand t'es musicien, ça te touche plus, je pense, les remarques sur la musique, sur ce que tu fais, parce que t'as un côté vraiment création et un côté très, très personnel. Et là, forcément, c'est d'autant plus chiant quand on commence à toucher là-dessus. Mais c'est ce qui motive. Pour tout te dire, Pampan, quand on s'était vu à Rotterdam, tu m'avais dit que mes mix étaient à chier. Et du coup, je me suis buté sur mes mix. Après, j'étais en mode putain, il a raison quand même. Et toujours écouté mes trucs, j'étais en mode putain, c'est comme de la merde et tout. Et après, je me suis buté. Mais non, mais justement, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est cool, tu vois, d'être un peu sensible là-dessus, parce que tu te butes d'autant plus et ça t'oblige à taffer. Et je pense que le prochain EP que je sors, il est pas forcément très bien mixé, mais il est vachement mieux mixé que le premier. Et donc, c'est bon. Moi, je suis content d'être sur la pente ascendante. Tu vois,
je me rappelle pas du tout de t'avoir dit ça. Je suis un enculé.
Non, t'étais bien bourré.
Okay. Pandrez aurait tué ta carrière. Si t'avais été un peu plus sensible, t'aurais tout lâché.
Ce serait clair.
Je suis une merde. Jamais je dis que ça va bien. Pandrez l'a dit. L'homme au million de stream.
Voilà. Oh la vache.
Voilà. Mais non, parce que j'ai écouté du coup les mix de Pandrez maintenant et ses premiers mix, et je me suis dit, ah, c'est bon, alors tout est possible.
Quel enfer! Ah, mais non, frérot. Et mes premiers mix étaient bien pires que ton premier EP. Hein. Ouh la vache.
Moi, il va falloir que je me fasse masterclasser hein, sur le mix.
Alors, parce que c'est drôle, c'est que dans notre. Tu sais, avec Chrono et Renard, on fait une mixtape là. Et en fait, c'est devenu un running gag que je dise que tout est nul dans le mix et tout.
Alors c'est pas un running gag, c'est une réalité.
Surtout que la réalité. Mais surtout que la réalité, c'est que Pandrez nous disait tout à l'heure qu'il avait une oreille absolument pourrave, qui faisait pas la différence entre un MP3 horrible et une IRS. Donc les mix, en fait, il entend pas de différence. C'est juste pour le plaisir et c'est pourrave.
On a tous une oreille différente pour le mix, et je pense que Pandrez, il est très sensible à ce qui se passe dans le bas du spectre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, je vais tendance à, moi, dans mon rapport avec lui sur les mix de la mixtape, etc., tu vois, s'il me dit des trucs sur le mix, genre dans le haut du spectre, je vais me faire un peu plus confiance. Sur le bas du spectre, je vais me dire, ici, il a dit ça et tout, vas-y, il y a moyen que, tu vois. J'ai l'impression que t'es plus sensible à cet endroit-là.
Oui,
tu vois.
Mais ça, c'est parce que je suis vieux et j'entends pas très bien les aigus.
Non, mais surtout, t'es un petit peu obsédé par les kicks et les 808. Et,
je mets quasiment jamais de 808 dans mes sons.
Arrête
de moi. Je mets de la basse, j'ai une basse.
Tu fais des glides. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir du feedback, surtout de gens que tu respectes, ou même juste pas, tu vois, juste des nouvelles perspectives sur ce que tu fais, quoi, tu vois.
Je ne te respecte pas, mais donne-moi ton feedback.
Voilà.
Tu ne me respectes pas, tu ne me respectes pas.
Voilà, on y retourne. Mais non, mais c'est vrai, c'est... Puis que... Enfin, je sais pas, genre, c'est sûr qu'on est là que pour progresser. Genre, personne, je pense, dans le monde de la musique se dit « j'y suis ».
J'y suis, c'est bon.
Tu vois, personne se dit ça. Donc,
et de toute façon, le mieux, et de toute façon, même en termes de progression, le mieux, c'est toujours d'être le plus nul dans ton groupe d'amis, tu vois. C'est t'es le meilleur, c'est là où t'apprends le plus, tu vois, en t'entourant de gens très très bons et meilleurs que toi.
Ouais,
c'est ça qui est top. Donc là, quand t'es le meilleur, c'est bien pour l'ego, mais c'est pas là où tu vas progresser, quoi.
Ouais, mais ça, c'est super dur.
C'est le premier conseil que je donne, je vois. Quand on me dit comment on fait pour s'améliorer quand on est nul, je dis trouve des gens plus forts et deviens leur pote.
Wow. Moi, j'ai eu ce problème dans ma vie tout le temps pour jouer avec d'autres gens, plus en mode répète live, etc. C'est soit j'étais celui qui se débrouillait le mieux, soit ceux qui jouaient vraiment mieux que moi, ils voulaient pas jouer avec moi. Et donc, je me retrouvais à chaque fois dans la même situation, tu vois.
En fait, il faut toujours avoir des gens ou des choses qui t'inspirent. Il y a énormément de gens qui m'inspirent. Ils sont pas forcément plus forts que moi ou moins forts, tu vois. Mais il y a toujours quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu sais, je suis sur un Discord où il y a un gars, par exemple, je trouve ses grooves incroyables, comment il fait groover ses batteries. Alors, le groove de ce mec-là va m'inspirer. Il y a un autre gars, je trouve que son jeu de clavier, je le trouve fantastique. Donc, je vais m'inspirer aussi de ça, de ce côté-là. Machin. En fait, tu vas piocher un peu ce qui te plaît chez tout un tas de gens. Et c'est mieux si c'est des gens qui sont proches de toi, parce que ça te permet de pouvoir échanger directement avec eux, de pouvoir aussi, pourquoi pas, collaborer avec eux. Moi, c'est dans les collabs où je m'améliore le plus, parce que je vois comment fait le gars. Je récupère ses pistes MIDI, par exemple. Je vois comment il a joué, comment la vélocité est gérée sur ses accords de piano. Je vois quels effets il met à quel endroit. Et en fait, c'est dans les collabs, en fait, où tu t'améliores le truc et tu voles les jutsu des gens, en fait.
Voilà. Il faut voler.
Il faut tout voler. Bah, c'est la morale,
c'est
aussi.
Énormément de vols. Hein. C'est l'adaptation.
C'était Stravinsky qui disait Un bon compositeur, il compose, et un très grand compositeur, il vole.
C'est vrai, j'aime beaucoup.
Oui, je pense qu'on pourrait discuter 4, 5, 6 heures sans problème. On se refera un épisode peut-être pour les 2 ans. Ou voilà. Cette fois, on parlera de la prod, pourquoi pas, tu vois, de comparer, etc. Voilà. J'en profite, Michel, on le fait pas assez souvent. Remercions quand même notre sponsor.
Qui ça?
Qui ça?
Éric Zemmour.
Voilà. Vas-y. Qui est notre sponsor, Michel? Qui est notre sponsor?
C'est Thoman, notre sponsor, Salman.
Thoman, ils m'aident bien ou pas?
Merci, Thoman, de nous sponsoriser.
Très bien.
Voilà. Harley Benton.
Magnifique.
Magnifique. Allez.
Non, c'est au-delà de la blague, c'est vrai que c'est grâce parce qu'on a Thoman avec nous qu'on peut faire cette émission. Donc, merci encore une fois à Thoman de nous soutenir. Merci aussi à vous qui regardez l'émission régulièrement. On a de bons retours à chaque fois. Bon, ça se passe plutôt bien. On est content. Après, c'est un an d'émission. Il va falloir qu'on fasse on fera un petit point cet été, Michel, sur qu'est-ce qu'on fait ensuite.
Comment...
Oh, on a le droit à un petit coucou.
Un chat super déformé, du coup.
Un chat, c'est un chat.
T'es beau, Nacho, t'as vu?
Il est beau.
Nachito.
Donc, en tout cas, voilà, merci de nous suivre, d'écouter ça. N'hésitez pas, évidemment, comme vous le savez à chaque fois, à vous abonner à la chaîne ou vous abonner à la version audio du podcast, à lâcher des commentaires, etc. On a besoin que cette émission prenne encore plus son envol. Et je pense qu'il y a des discussions intéressantes, des gens intéressants, et voilà. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, dans 15 jours à peu près. Merci encore une fois, Pandrez. MV, Florent Garcia, les gars, vous avez répondu tout de suite présent quand on vous a dit qu'on voulait faire ce petit All-Star, donc ça fait vraiment plaisir.
Voilà, ben, merci à vous.
Hein. Ouais, merci pour l'invite.
Très cool, très cool.
Très, très cool. Et Michel, bah, je te remercie aussi quand même.
Oh, ben, merci à toi, Salman, pour toute la gauche.
Très bien.
Au nom de la gauche.
et à très vite, tout le monde.
Bisous.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.